ce séminaire. Et comme à notre habitude, je vais revenir très brièvement, 5 minutes, sur la séance de la dernière fois, et puis introduire ensuite Christian Boichin, avant qu'il ne prenne la parole. Donc la dernière fois, c'est quelqu'un que Christian connaît très bien d'ailleurs, qui est intervenu, Gérald Dujardin, qui est intervenu sur le thème de l'électronique moléculaire, qui est son domaine de recherche, globalement. Et dans son exposé, il a été amené à prendre ses distances par rapport à l'idée reçue que les nanosciences sont avant tout orientées vers ou tournées vers des applications, le problème des applications. C'est-à-dire que le but des nanosciences, ce serait de fabriquer des dispositifs pratiques, utiles, avant tout. Il a insisté au contraire, et ça c'est un thème qu'on a été amené à évoquer assez souvent depuis le mois de janvier, sur l'importance des enjeux de connaissance, au contraire, non pas des enjeux pratiques d'application, mais au contraire des enjeux de connaissance de ces recherches. Enjeux d'ailleurs que, malheureusement, hein, c'est ce qu'il a dit la dernière fois, et ça me paraît très important, que les chercheurs eux-mêmes sont conduits à minimiser dans leur communication, mais aussi dans leur relation avec les financeurs, avec les institutions de recherche. Et je crois qu'il faudra vraiment revenir sur cette question, puisque les raisons de cette difficulté, les raisons de cette minimisation des enjeux de connaissance, à mon avis, n'est pas encore complètement claire. Ne sont pas encore complètement claires, et je crois qu'il faudra approfondir un peu la question. Alors bien sûr, la question des applications n'est pas complètement absente des préoccupations des chercheurs, il a insisté là-dessus, et en particulier, il a suggéré que les nanosciences moléculaires inaugurent, peut-être, hein, c'est à vérifier, hein, la question est ouverte, une nouvelle manière de faire de la recherche, je reprends ces termes, entre recherche fondamentale proprement dite et recherche appliquée. C'est pas complètement de la recherche fondamentale parce qu'il y a quand même des objectifs relativement précis, mais c'est pas de la recherche appliquée au sens qu'il s'agit pas prioritairement de fabriquer un démonstrateur dans les 2 ou 3 ans à venir. Un des points très importants de son exposé a été celui de l'histoire de l'électronique moléculaire. Il est revenu sur un certain nombre d'étapes, de jalons importants dans cette histoire. Il y reviendra sans doute tout à l'heure. Et il me semble que son récit a fait apparaître 2 éléments extrêmement importants. Le premier, c'est que le récit qu'il a fait, la narration qu'il a proposée, a une valeur de construction et même de reconstruction. Il a complètement assumé ce côté reconstruction de la narration historique. Autrement dit, ce n'est qu'après coup, a posteriori, qu'on peut essayer de trouver des liens souterrains entre des recherches, des découvertes, des inventions qui, sur le moment, quand elles se font, apparaissent indépendantes. Donc l'invention du STM, le travail sur l'ATP synthase, etc., etc. Tout cela, sur le moment, peut apparaître déconnecté, mais finalement, ce qui se dessine, c'est peut-être une culture commune que les chercheurs sont amenés à partager. Une culture commune, non explicitée, hein, qui reste, encore une fois, un peu incoative, mais qui est agissante sur les acteurs de la recherche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les différents jalons de cette histoire ne sont pas conformes à cette histoire que j'appellerais un peu officielle. Alors, officielle au sens où elle traîne un peu partout, où elle semble être un passage obligé, par exemple, cette histoire qui commence systématiquement par évoquer la célèbre conférence de Feynman en 59, qui passe ensuite au STM au début des années 80, mais aussi à Drexler, aux manipulations de Heigler, etc. C'est cette histoire qu'on peut lire un peu partout. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, les jalons qu'il a posés dans sa propre vision de l'histoire de l'électronique moléculaire sont assez différents. Bon, on retrouve certains points communs, le STM et son importance évidemment, mais il n'a pas du tout fait commencer cette histoire à Feynman, plutôt un article important de 74 d'Aviram et Ratner. Bon, donc avec une histoire qui n'a pas du tout le sens d'une sorte de mythologie ou d'une hagiographie, je vais revenir un peu sur ces questions tout à l'heure, mais qui avait vraiment un sens très opérationnel, très opératoire et correspondant à ses propres pratiques de chercheur. Je voudrais vous lire juste une citation d'un historien des techniques qui s'appelle Bertrand Gilles. À la fin des années 70, il écrivait la chose suivante. « Quoi qu'on en ait pu dire, l'histoire des inventions est encore largement une mythologie, une hagiographie. » C'est pour ça que j'évoquais ces deux notions-là tout à l'heure, il y a un instant. Mythologie dans la mesure où l'on fait intervenir des forces autonomes, souvent mal définies, hagiographie dans la mesure où l'inventeur apparaît comme un personnage doué de facultés supranaturelles. Et les deux sont inévitablement liés, puisque pour participer à cette mythologie, il faut avoir des qualités qui sont celles d'un saint, d'un personnage en relation directe avec les divinités. Je crois que cette histoire, entre guillemets officielle, répond complètement à cette analyse de Bertrand Gilles. On est à la fois dans une sorte de mythologie où on érige des personnages qui sont dotés de facultés impressionnantes. Donc c'est Feynman et son article de 59, sa conférence de 59, ça va être Drexler, ça va être Heigler et sa capacité à manipuler la matière atome par atome, comme on a dit. Bon, et puis c'est aussi une mythologie parce que ça fait intervenir des forces, celles du progrès technique, celles de l'homme prenant en charge le processus d'évolution naturelle, et ainsi de suite. Donc je crois que ce que nous a montré Gérald Dujardin, c'est qu'on peut raconter cette histoire, bien sûr, autrement, d'un point de vue de chercheur, d'un point de vue très opérationnel, et pas du point de vue de cette mythologie doublée d'une hagiographie qu'on a l'habitude d'entendre. Eh bien, en invitant Christian Joachim aujourd'hui, on avait, Sacha et moi, l'intention de poursuivre un peu cette réflexion et de revenir sur l'histoire des nanotechnologies, donc en rupture avec ces idées reçues et cette vision un peu mythologique de cette histoire. Christian Joachim, très rapidement, est directeur de recherche au CNRS d'abord, directeur du groupe nanosciences du Centre d'élaboration des matériaux et d'études structurales de Toulouse, le CEMES. Bon, il est mondialement connu pour ses recherches de physique théorique. Et aujourd'hui, il va nous parler... Non, c'est pas ça. T'es pas mondialement connu.
Mais physique théorique, oui, non, ça... Bon, bref, allons-y.
Bon, théoricien, voilà. Bon, d'accord. Donc tu vas revenir là-dessus certainement, et en tout cas, tu vas nous parler, je pense, de ta vision de l'histoire des nanos, des nanosciences, en cassant certainement un certain nombre d'idées reçues. Sacha, tu veux peut-être ajouter quelque chose?
Moi, simplement, je voulais présenter un article de Cyrus Modi. Défend l'approche de l'histoire des sciences et de l'histoire des techniques dans tout ce qu'on appelle social issues of nanotechnology, donc cette mobilisation des sciences humaines pour fournir des discours d'accompagnement, des discours sur les implications des nanos, mais et donc il défend cette approche et il explique aussi pourquoi institutionnellement la réflexion sur l'histoire des sciences et des techniques pour les nanos est passée à la trappe dans le contexte américain, mais peut-être j'en parlerai lors de la discussion. Voilà.
Bon, Christian, d'abord merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Pas de problème, on est presque arrivé, merci, avec Bernadette, on a presque fait une interview, on a pu commencer. Non, merci de m'avoir invité, moi je suis venu aussi pour travailler un peu à Paris quand même, hein, pas seulement pour manger et pour aller au bar, comme on disait tout à l'heure. D'accord, donc on m'a donné un titre et un petit parcours qui était en fait controverse en histoire des nanos, donc je vais essayer de me tenir à ça. Et puis comme j'ai écouté partiellement la conférence précédente de Lévi Leblond et complètement celle de Gérald, en bricolant un peu la maison, donc comme ça je répondrai aussi à quelques questions ou interrogations qui se sont posées dans les deux. Bon, alors, au niveau de l'histoire du nano, j'ai essayé de faire un plan de comment on pouvait l'aborder. Alors d'abord, je vais tenir qu'une date, puis après, je vais avoir cinq points d'entrée différents pour illustrer l'arrivée à cette date. Je ne ferai pas d'histoire contemporaine, je ferai de l'histoire ancienne, comme je disais tout à l'heure. La date, je pense quand même, et Gérald en a parlé la dernière fois, c'est l'hiver 89, avec Don Heigler et l'écriture atome par atome avec un microscope à effet tunnel. On viendra du pourquoi et du comment Don Heigler en est arrivé là. Donc ça, c'est une date parce que tout simplement, c'est une date d'un instrument, d'une technique qui rejoint une envie de toujours qui est d'écrire quelque part, de laisser une marque. Même si la marque de Don Heigler était un peu évanescente dans la mesure où quand on augmente en température... Le logo IBM disparaît, mais enfin bon, ça c'est... Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais amené Don Heigler aux grottes de Gargasse, près de Toulouse, où il y a, je crois, une des plus anciennes empreintes humaines de main sur une caverne, et il était resté scotché devant le raccourci historique entre la manière dont lui, il écrit atome par atome, et dont ses ancêtres projetaient comme ça, avec la peinture dans la bouche, faisaient une espèce de pochoir, en projetant de la peinture à travers les mains. Donc on avait visité ça ensemble, il avait été... Je trouvais ça intéressant d'avoir ce Don Heigler qui est un personnage quand même. Bon, ça c'est le point, c'est vraiment une date. Alors maintenant, comment on peut analyser ça pour arriver à cette date-là? Je dirais pas trop plus loin que 89-90. J'ai mis dans le désordre, mais après je vais le remettre dans l'ordre comme ça va arriver. D'abord, en premier point, les penseurs, ceux qui ont pensé et écrit sans faire de manip ni de théorie, à ces petites choses-là, c'est-à-dire à l'atome, à la molécule, en tant qu'objet individuel pour l'utiliser, faire des expériences, etc. Ça, c'est une première liste de personnes, et on peut les analyser une par une. Je vais faire une liste avec des dates précises. La deuxième partie, c'est les premières expériences, en parallèle pour certaines et après pour d'autres, qui ont essayé d'aller dans le sens, en particulier d'abord pour l'électronique moléculaire, d'ailleurs, dans le sens d'essayer de se connecter électriquement à une seule molécule. On verra que c'était un défi et que certaines personnes ont essayé d'y aller, même si c'était avec un succès ou pas de succès du tout. Il y avait une intention expérimentale. Ça, c'est une autre version. La troisième partie, c'est l'histoire de la microscopie. Parce qu'effectivement, il est quand même important de regarder qu'est-ce que nos anciens, au sens technique du terme, à partir des années 30, avaient comme envie, en regardant à leur bar en Allemagne, à quoi ils pensaient en buvant de la bière, et quels objectifs ils avaient à long terme. On verra d'ailleurs que ces objectifs ont été remplis longtemps après. Et en quatrième partie, il y a aussi la sémantique du mot nano, parce que c'est intéressant, un mot toujours concentre sur lui tout un tas d'époques et de définitions par époque. Donc c'est intéressant de suivre comment ce mot a évolué, qu'est-ce qu'il est devenu et comment on l'emploie de nos jours par rapport aux racines grecques ou autres. Et cinquièmement, parce que ça manquait, vous dire un peu aussi historiquement comment la notion de précision de fabrication, qui est une autre version du mot nano, a évolué au cours des âges techniques. Parce que finalement, là, on verra que fabriquer précisément un objet ou fabriquer précisément un instrument, ça aussi engage d'aller chercher ailleurs que du savoir-faire de l'atelier ou de l'artisan, des instruments qui sont plutôt dédiés aux sciences au départ et qu'on retrouve chez l'artisan qui fabrique l'instrument. Voilà à peu près les cinq pistes sur lesquelles on peut analyser. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai choisi cinq. Qui évidemment vont se recouvrir un peu parce que certains personnages vont se retrouver à côté de l'autre de cette liste. Alors bon, au niveau, moi j'ai appelé ça les penseurs, je ne savais pas comment les appeler, du moins ceux qu'on retrouve dans des livres, qui n'ont pas fait de manif sur le sujet, qui ont pensé, qui ont voulu faire, mais qui n'ont pas eu le temps, ou qui n'ont pas eu l'occasion, ou qui n'ont pas les moyens, etc. Alors le premier, je laisserai de côté Maxwell parce qu'on n'a pas beaucoup de vision effectivement de ce qu'il pensait vraiment et de comment il appréciait ce que c'était un petit objet ou une molécule en 1770. Bon, même s'il y avait son petit démon qui traînait, on est trop loin par rapport à Maxwell pour mettre notre culture sur ces phrases. Donc, même si c'est très tentant de le faire. Alors, le premier, je pense qu'il y a vraiment, et ça donnera une petite raison à une origine biologique électronique moléculaire, mais une toute petite, qui est en fait qu'un prétexte pour faire passer un papier et publier un papier, c'est un monsieur qui s'appelle Sten Gorgui, qui est le prix Nobel de chimie, de biochimie, je crois, donc c'est peut-être plus de médecine, en 49 pour l'écriture de la vitamine C, et qui en 49, dans une petite note à Science, a dit qu'une protéine, c'était finalement comme un fil électrique. Voilà. Il avait la vision que les processus élémentaires de la vie pouvaient conduire à ce que la vie, appelons comme ça en mettant ça à son époque, utilise l'électricité. Voilà. Et son analogie, c'était une analogie de forme. Quand il regardait une protéine et qu'il regardait un cristal, il disait finalement, il n'y a aucune raison, puisque la protéine est assez régulière dans sa forme chimique, qu'en fait, elle ne fasse pas la même chose qu'un cristal qui laisse passer des électrons. Voilà. Donc ça, c'est la morse. Et beaucoup de gens en physique du solide, en particulier dans les semi-conducteurs, supraconducteurs organiques, ont suivi cette piste, notamment à Orsay, en France, ont suivi cette piste pour faire des semi-conducteurs, des supraconducteurs organiques. Il y a même eu un célèbre papier dans les années 60 d'un monsieur Little qui disait qu'une protéine, ça serait un supraconducteur, le meilleur des supraconducteurs. Avec d'ailleurs un relent de dire que les molécules de la vie, c'est merveilleux, ça fait tout. C'est magique. On va y revenir sur ce point, molécules de la vie, c'est magique. Et donc, pratiquement, il en était à dire à l'époque que même l'ADN était supraconducteur. Parce que ça ferait bien, une molécule supraconductrice qui stocke de l'information, c'est extraordinaire, c'est la plus magique de l'univers. Alors ça, c'est le premier, et on verra que Aviram, dont a parlé Gérald, a utilisé comme prétexte, je reviendrai, pour faire passer son papier, cette origine-là, même si ce n'était qu'un prétexte. Après, le deuxième, en tant que penseur dans l'autre sens, je vais mentionner Feynman. J'ai pas trouvé entre 49 et 59 des personnes qui, effectivement, attribuent un rôle particulier à une seule molécule. en prenant nano au sens, je réduis la fonctionnalité à l'échelle du molécule. C'est pour ça qu'on verra après que l'autre version, c'est précision de fabrication au nanomètre, c'est un autre domaine de ce qu'on attribue à nano avec le préfixe nano devant. Là, c'est vraiment nano, l'objet complet à la taille du nanomètre et à une fonction qu'on essaie d'utiliser objet par objet. Donc c'est Feynman, bien sûr, où là, Feynman, là aussi, c'est à peu près comme Maxwell. On peut le lire de beaucoup de façons, les phrases qu'il écrit à propos de fabrication avec, à l'échelle atomique, fabrication atome par atome. On peut le lire en termes, comme c'était à l'époque, de l'épitaxie, précision de fabrication à l'échelle atomique. Ça ne veut pas dire qu'on manipule un atome par un, ça veut dire qu'on est capable, couche par couche, d'assembler un matériau. Ça, c'est la première lecture, et je penche, pour avoir discuté avec Ezaki quand j'étais à IBM, que en fait, c'est plutôt cette interprétation-là qu'on pourrait prendre, plutôt que l'interprétation moderne, qui est post-STM, qui est de dire, on va atome par atome manipuler la matière pour faire des machines. La raison est que, si vous regardez bien les exemples que donne Feynman dans son texte, tous ces exemples, que ce soit pour stocker une information, pour faire un fil électrique ou pour d'autres choses, le nombre d'atomes mis en jeu est faramineusement grand. La section d'un petit fil à l'époque qu'il mentionnait, c'est 100 atomes. La section, pas la longueur, la section. Et un bit d'information, je crois, c'est pareil, ça fait 10 nanomètres. 10 nanomètres, c'est, en nombre d'atomes, c'est gigantesque. Donc j'ai l'impression que pour lui, c'était plutôt la précision de fabrication qui est importante. Et d'ailleurs, on viendra après avec un monsieur, un japonais, en 1974, quand on lisait bien son papier aussi, au niveau de la formation des mots avec le préfixe nano, on verra qu'effectivement, la confusion dans la lecture actuelle est terrible, parce qu'en reprenant ce texte, ce petit papier du japonais Taniguchi, quelque chose comme ça, oui, c'est ça, à l'époque, en réglant bien avec ça à l'époque, c'était vraiment la précision de fabrication. Mais tant mieux, je veux dire, c'est très beau à l'époque de faire couche par couche un matériau, c'est même, on a besoin de ça, hein, pour comprendre des phénomènes quantiques, mésoscopiques, ou pour faire des dispositifs, c'est très bien. Elle avait quelque chose quand même, Feynman, qu'on ressent dans tout son texte, qui vient d'ailleurs peut-être ou pas de Stan Gorgi, mais plutôt, je vous rappelle qu'à l'époque, l'ADN en avait sa structure X, il n'y a pas longtemps, hein, c'est 53, là on est en 59, c'est quand même son admiration, que l'on sent partout, pour les mécanismes élémentaires de la vie. Admiration, on va voir pourquoi, parce que j'ai repêché chez Mono une phrase qui prouve bien comment les biologistes sentaient que les physiciens admiraient ce que c'est faire la vie, au sens macromoléculaire du terme. D'accord ? Les macromolécules de la vie, qui, en le texte, savent tout faire, manipuler des molécules, stocker de l'information, c'était pour un physicien comme Feynman, je crois, un superbe exemple. Mais je ne crois pas qu'il ait envisagé de machines, d'ailleurs je n'ai pas trouvé, de machines plus petites qu'une machine macromoléculaire. Au sens, une petite molécule qui ferait un nanomètre par un, et qui a des roues, des pattes, etc. Parce que j'ai l'impression que l'échelle fixée limite, c'était l'exemple de la vie, dans son texte. Alors, un autre personnage après, c'est Boyer, prix Nobel, mais je ne sais plus en quelle année, de biochimie, il me semble aussi, qui en 64, pour essayer de renchérir un peu, de comprendre aussi comment ces protéines font des choses, et cette fois-ci non plus par l'électricité, mais par la mécanique, a supposé qu'en fait, les protéines changeaient de forme. Alors, il a presque précisé que ça allait tourner, mais changer de forme. On verra pourquoi tourner, parce que après les moteurs protéiques sont par là, mais changer de forme, et ça expliquait certains phénomènes de la vie. Donc, si je résume, en 49, c'était l'électricité qui pénétrait dans les processus de la vie, avec les protéines, et en 64, c'était la mécanique qui, grâce aussi à l'exemple de la vie, arrivait. Alors après, bon, ça c'est... Mais malheureusement, pour Boyer, j'ai du mal à trouver tous les écrits à propos de ça. Tout le monde en parle, mais au moins c'est une gorgie, il y a un papier de science en 49, ça fait une demi-page, c'est pauvre clair. Feynman c'est pareil, vous voyez, j'ai plus de mal. Même dans son discours Nobel, c'est très très flou, ces allusions. Ce sont plutôt, je dirais, des allusions au fait que les protéines se déforment et que ça sert dans les processus élémentaires de la vie que plutôt des mouvements qu'il imaginait. Après, il y a 68, il y a quand même M. Barjavel. Si vous lisez La nuit des temps, pour ça j'ai dit les penseurs parce que ça, c'est une maturation intellectuelle qui se déroulait sur beaucoup de continents à la fois, en fait. Qui, dans La nuit des temps, il y a une phrase, quelque part, page 92, je crois, et, quand le héros principal, qui s'appelle Brivo, rentre dans la sphère qui était cachée sous la glace depuis La nuit des temps, quand la Terre avait changé de pôle. Il rentre dans la sphère et il dit à son collègue, ah, il regarde la paroi, il dit, ah, ça, c'est de l'électronique moléculaire, tout est dans les molécules. Alors, pour la petite histoire, il se trouve que, je peux dévoiler un petit truc, j'ai écrit à la fin de ma thèse en 85, en envoyant ma thèse à Barjavel, avant qu'il décède, et on a eu un petit échange, j'ai gardé une belle lettre, j'aurais pu l'amener d'ailleurs. Et je lui ai demandé pourquoi il avait pensé tout est dans les molécules. Et c'est là qu'il confirme que, avec une phrase bizarre, à part le fait qu'il aimait bien la techno, quand même, dans toutes ses anticipations, il dit, ben, finalement, c'est naturel. On va de plus en plus petit. Donc, on va bien atteindre les molécules. Voilà, c'était naturel. Et je peux même vous envoyer, tiens, je vais envoyer à Bernadette la copie de la lettre que je garde pieusement. Et je lui avais répondu, mais malheureusement, il est mort. Donc, on n'a pas pu aller plus loin dans nos échanges. Et après, donc, ça, c'est 68. Et 72, là, je vous recommande quand même d'aller lire ou relire Le hasard et la nécessité. À la lumière de ce qu'on sait maintenant. Parce que, effectivement, à l'époque, essayer de comprendre la vie avec une optique cybernétique, c'était important et nouveau pour essayer de faire comprendre les processus de la vie avec des mécanismes d'informatique, stocker l'information, dupliquer l'information, etc. Il parle même du démon de Maxwell, de l'efficacité des macromolécules par rapport au démon de Maxwell. Enfin bon, c'est tout un environnement cybernétique qui le plaque pour faire passer un message de fonctionnement de la vie. Et vous trouvez à une page un truc extraordinaire qui m'avait complètement échappé quand j'étais jeune et que j'ai retrouvé en préparant mon petit livre. Et il y a la page, je ne sais plus quelle page c'est, mais vous la retrouvez facilement, vous enverrez la page. Il dit qu'en fait, les physiciens ne sont pas malins. Parce que à l'époque, en 72, leur petit relais, donc leur petit transistor, il pèse 10-2 grammes. Or, une protéine qui fait le même propriété, il dit sommet de signaux, faire un seuil, et puis délivrer une sortie, ça pèse 10-17 grammes. L'air de dire, les physiciens, qu'est-ce que vous faites? La vie, on est à 10-17, et vous êtes capable de faire que 10-2. Et c'est la page, je ne sais plus combien, 72, 73, de hasard et de la cité. Donc encore une fois, on voit encore depuis les années 50, je m'en ai au milieu des années 70, cette envie intellectuelle de dire quand même la vie ça sait faire des choses à l'échelle macromoléculaire, donc pourquoi nous on ne sait pas faire. Même s'il n'avait aucun outil, même aucune théorie, à part une petite chose qui se promenait, mais qui en fait apparemment ne sert à rien, mais une interrogation de chimiste qui vient d'un monsieur qui s'appelle Taube, qui a le prix Nobel en 86. Bernadette, c'est mieux moi que ça. Je vais utiliser Bernadette comme support de référence. Je crois que c'est en 86, prix Nobel de chimie. Je crois que c'est Taubé. Alors lui, il a un parcours, je le mentionne parce qu'il va d'un seul coup se confondre avec Aviram, Carter, électronique moléculaire. Ce monsieur avait repris des vieux travaux de Français, de Perrin, puis de je ne sais plus qui, l'électrochimiste français, qui étudiait les transferts d'électrons en solution, du complexe de fer, etc. Et on savait qu'en solution, les molécules changeaient leurs électrons. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'est stabiliser deux atomes métalliques pour que le lien entre ces deux atomes ne soit plus que la solution, mais soit vraiment un petit truc. Et le premier complexe sur lequel il était tombé, c'était un complexe qui était stabilisé par une molécule d'eau. Il avait noté qu'effectivement, on pouvait spectroscopiquement enregistrer la trace d'un transfert d'électrons entre deux complexes qui n'y respectaient plus simplement les lois statistiques au hasard de rencontre de deux types de ce complexe dans l'eau, mais qui est stabilisé par l'eau. Et il a eu l'idée géniale, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel après, de trouver le petit ligand, le petit lien moléculaire qui stabilise réellement deux centres métalliques. Et à ce moment-là, il a pu observer réellement un transfert d'électrons à travers une petite molécule. Donc il prouvait par l'expérience, même si c'était statistique parce qu'il n'avait pas une molécule sous la main, c'était en solution, il prouvait par l'expérience que ce qu'affirmait sur une toute petite molécule, ce qu'affirmait Sken Gorgui sur une protéine. On va voir que ceci va avoir un retour intéressant 10 ans plus tard. Donc là, ce type d'expérience qui se déroulait au cours du temps était là depuis les années 50 et ça vivait sa vie normale de science, de l'électrochimie et de la chimie. Donc on va la laisser vivre, cette voie-là. Et puis donc en 74, il y a le papier d'Aviram et Ratner. Alors là, il faut apporter quelques précisions. C'est qu'en fait, ce papier... l'inspiration de ce papier vient de deux. Enfin, l'inspiration qui est une seule molécule va remplir la fonction d'une diode. Si on regarde bien physiquement ce que ça veut dire, c'est exactement un démon de Maxwell. Mais c'est un démon de Maxwell qui trie les électrons et qui ne trie pas les molécules. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a reproché à IBM de faire ça, parce que c'était impossible. Physiquement, pas techniquement, c'était physiquement impossible, parce que ça rencontrait des mondes Maxwell que les théoriciens, la théorie de l'information, etc., avaient éliminé avec le copain d'Einstein dans les années 30, je crois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'idée, il l'a eu tout simplement par une analogie avec les diodes des acquis, qui sont un empilement de zones semi-conductrices qui, entre guillemets, ont plus d'électrons et moins d'électrons. Et Ezaki a eu le prix Nobel pour cette découverte de ces diodes, qui sont bien sûr, d'ailleurs, bizarrement, le résultat des fabrications couche par couche, donc de précision atomique, dirait Feynman. Et en écoutant, comme il était à IBM, Ezaki et Aviram aussi, et en écoutant les exposés d'Ezaki, Harry et un monsieur qui est passé complètement sous silence, qui s'appelle Phil Sidon, qu'on oublie parce qu'il est mort trop tôt, pour faire ça, a eu l'idée de ces petites diodes. Et comme il cherchait à faire sa thèse, il a fallu qu'il trouve un autre personnage très important qu'on ne cite jamais, qui est Ratner, qui était prof assistant à la fac de New York. Et bien sûr, comme Aviram était chez IBM, chez l'industrie, il fallait à l'extérieur un référent universitaire, et il a cherché Ratner. Donc les deux ensemble, et Ratner était le théoricien qui s'occupait à cette époque-là de comprendre ce que faisait Tobé en transfert d'électrons. Donc cette voie-là s'est rebranchée d'un seul coup, historiquement, avec transfert d'électrons, et ça a donné un papier où, pour le faire passer, pour en avoir discuté avec Harry un certain temps, il a été obligé, les référés l'ont forcé, d'aller rechercher comme prétexte le fait qu'il y a des électrons qui se baladent dans la vie. Et vous lisez les quelques pages d'introduction, il dit, il reprend en fait l'argument de Senghorgi, il n'y a pas de raison qu'en électronique on utilise des électrons, que la vie utilise des électrons pour faire des choses merveilleuses, et que nous on n'arrive pas à faire des choses merveilleuses avec des molécules artificielles. C'est les quatre premières lignes de son papier à l'introduction. Mais pour Harry, c'est un prétexte. Quand vous prenez sa thèse, vous verrez que ça n'existe pas. Mais bon, c'est le marché de la publication qui vaut ça. Il faut trouver le bon créneau et la bonne histoire au bon moment pour faire passer une idée.
Je t'interromps. Pourquoi as-tu dit que chez IBM, on l'avait critiqué parce que c'était physiquement impossible, parce que bon, le démon de Maxwell, c'est une fiction. Mais techniquement, c'était peut-être impossible.
C'était impossible aussi.
C'était impossible.
Techniquement, il faut se rappeler en 1974, la taille exacte d'un transistor en 1974, allez, je vous le mets à 100 microns. Et donc en poids, d'après Mono, c'est 10-2 grammes. Si je reviens sur ce que disait Mono. Donc là, il n'y avait aucun moyen technique d'aller vérifier ça. C'est un papier purement théorique. D'ailleurs aussi, c'est un papier purement théorique pour l'autre raison, pour prise de brevet. Il y a eu un brevet qui a été pris avant. Enfin, il y a tout un tas de choses à l'époque. Et Phil Sidon, d'ailleurs, n'est même pas sur le papier. Alors qu'il est, dans tout un tas de brevets correspondant à ça. Bon, ça, c'est 74. Là, c'est vraiment... dans les années 74, jusque la manipulation des atomes, et peut-être un peu après, jusqu'à ce que le mot nano soit associé à peu près à tout en partie scientifique, ce qui avait le vent en poupe, c'était l'électronique moléculaire, de ce côté-là. Pas encore la mécanique moléculaire, juste mécanique moléculaire en sens mécanique d'une seule molécule, plutôt l'électronique moléculaire. Et donc, c'est le papier fondateur de l'électronique moléculaire, même s'il n'y avait aucun résultat technique, ni pratique, ni on ne sait même pas comment faire, d'ailleurs, pour faire ces trucs-là. Voilà. Alors, un autre monsieur qui est très important, parce que lui, pour le coup, Harry n'est pas du tout médiatique, Aviram. C'est un monsieur très réservé. Pour être Daniel Lodge, je signale d'ailleurs que vous pouvez investir dans son entreprise, qui s'appelle Qtronics, qui est une entreprise privée. Monsieur Aviram est à la retraite, il a créé une start-up, et cette start-up est financée par l'armée américaine, même s'il est à la retraite. C'est intéressant comme moyen de financement. On finance les retraités aux États-Unis. Bref. Non, mais il est très content. Et il a d'ailleurs des copains retraités comme lui. Ça fait un peu penser à Space Cowboy avec des retraités d'IBM. Ils jouent ensemble, ils s'échangent leur expertise. Et ils avancent, ils vont sur eBay et ils achètent des spectros qui ne marchent plus pour 10$ et puis ils en font un vrai. Enfin bon, ils s'amusent. C'est la retraite. Bon, bref. Mais l'entreprise s'appelle Qtronics. En 79, il y a un monsieur qui s'appelle Carter, qui lui est très médiatique, et c'est lui en fait qui a en fait relancé l'histoire de l'électronique moléculaire, qui était un peu floppy-floppant après le papier d'Harry, puisque si vous regardez le taux de citation de papier d'Aviram, il est resté à 1-2 par an pendant presque 20 ans. Personne ne lisait ce papier. Personne n'avait rien à faire, pour dire vrai. Et donc Carter lui a relancé cette histoire avec une idée complètement différente. Lui, il venait des polymères conducteurs. Donc sa racine, en fait, c'est Sten-Gordy pur et dur, longue molécule régulière, comme les protéines. Et il a eu l'idée que, en fait, Enfin, si Disney vient de deux parties, je vais te lancer parce que tu as pas dit. Encore une fois, toutes ces histoires, je m'aperçois. Première partie, c'est qu'on savait, par l'expérience de la microélectronique, que assembler des transistors un par un sur une surface, c'est que ça coûtait très cher et la fiabilité était nulle. On le savait depuis les années 50, d'où l'invention des transistors, de circuits intégrés, sur la même pièce. Et Carter, on le lit dans un PP de 84, son idée c'était de dire Aviram, c'est très bien, mais on ne va pas rejouer le coup du pré-électronique en disant on ne va pas pouvoir assembler toutes ces petites molécules d'Aviram où on veut partout sur une surface. Il faut que je sois capable de tout mettre en une seule molécule pour faire une technologie monolithique, dirait les microélectroniciens, ou monomoléculaire, dirait les molécules. Et de cette idée-là, il a commencé à dessiner, je dis bien dessiner, alors qu'Aviram avait quand même fait des calculs en 1974, dessiner des circuits moléculaires. C'est-à-dire des molécules très compliquées qui, de forme, ressemblaient à un circuit électrique. Et lui, il a tenu de 79 à 84, 85. Alors, ce monsieur, à part le fait qu'il... D'ailleurs, ça, scientifiquement, ça pourrait se tenir. Ça pourrait. Mais bien sûr, jamais personne n'a synthétisé les molécules proposées par Carter. Que les chimistes, ils en auraient peut-être pour 100 ans, et encore. Par contre, Aviram, bon, je crois que deux chimistes dans le monde ont synthétisé les molécules, ces molécules ou des dérivés. D'autres ont cité des qui ont le même rôle. Donc là, ça a donné naissance à une chimie, enfin une chimie proprement dit en termes de nouvelle chimie, mais à une nouvelle classe de molécules, associant des donneurs et des accepteurs. Carter, pour le moment, non, à part un exemple au Japon récemment, où les Japonais ont essayé de montrer qu'ils étaient capables de synthétiser une très très longue molécule de 0,1 micron, de long, une seule molécule, 0,1 micron, pas un polymère, vraiment toutes les molécules dans la solution ont la même longueur. Donc ça donnait des idées aux chimistes de dire, dans la voie de Carter, est-ce qu'on est capable de faire des énormes molécules où chaque atome ou chaque groupe en chimique est exactement à la même place et toutes les molécules sont les mêmes en solution. D'ailleurs, ça ne tenait même pas sur la page d'Angewandte Chemie, puisque c'était trop long. Donc sur la page de garde, il y a du mal à mettre la molécule en image entièrement. Donc alors, Carter a eu un autre avantage, c'est qu'il a eu des moyens, peut-être que lui travaillait dans l'armée américaine alors qu'Harry travaillait à IBM et était plus confidentiel, il a eu les moyens de faire de la publicité et de pousser son domaine pour que tout le monde le connaisse. Et un exemple, c'est que le premier congrès d'électronique moléculaire sur la planète a été organisé en 1981, c'était à Washington, au Naval Research Lab, et il y a eu plein d'entreprises, contrairement à ce qui s'est passé pour l'invention du transistor, il y a eu plein d'entreprises européennes qui ont envoyé des personnes écouter ce que c'était. Et en particulier pour la France, il y a eu le Roussel-Uclaf, Elf Aquitaine et l'Institut Pasteur. Joël de Ronay, Jean-Pierre Reynaud et l'Elf Aquitaine, je crois que c'était Hélène Bérard. Et il y avait Jean-Pierre Launay aussi, qui était de la bande à l'époque, avec qui j'ai travaillé... continue à travailler d'ailleurs avec Jean-Pierre Ney, voilà. Et donc tout ce petit groupe français, il y avait d'autres pays d'ailleurs, surtout se retrouvaient beaucoup, et ça a valu, je crois que c'est 80 ou 81, je sais plus, ça a valu dans la recherche un article en 81 où Joël de Ronay a appelé ça la biotique,
voilà. Et il y avait Drexler
dans ces... Ah non, il n'est pas encore né, Drexler,
dans les congrès.
Non,
non,
pas encore, il n'est pas encore né, Drexler.
C'est
pas encore arrivé.
C'est au deuxième,
jeune.
C'est au deuxième.
Oui, oui, non, le premier, il n'est pas arrivé, il n'est pas né, il devait être en licence à l'époque.
D'accord.
Voyons voir. Il a la même âge que moi, donc oui. Pour l'instant, scientifiquement, au moins, il n'est pas encore né. Non, mais on va le rencontrer, Drexler. J'y arrive. Voilà. Et donc ça veut dire aussi, si vous regardez dans tout ce qui s'est passé en France, vous trouverez une trace en 1984 ou 85, je crois que c'est 85, du premier congrès électronique nucléaire français qui a eu lieu au ministère de la Recherche, en haut, là, de la montagne Sainte-Geneviève, 85, où j'avais fait venir... Carter, puisqu'à l'époque, j'avais commencé à travailler sur le sujet. Donc, j'avais fait venir Carter, donc il y a eu le premier congrès électronique moléculaire européen qui était en France. Alors, petite histoire, anecdote historique, pourquoi ? Parce que si vous regardez bien les quatre personnes qui avaient été là-bas en 81, il y a un mélange. Non, il n'y a pas un mélange. Il y a principalement des gens qui étaient soit intéressés par les polymères conducteurs Elf Aquitaine à l'époque, soit par la biologie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une idée qui traînait, qui est l'idée naissante après Aviram de l'électronique moléculaire, qui est de dire, on en parlait à midi, qui est de dire qu'il serait peut-être intéressant de demander à une bactérie, j'employais un mot bizarre, de pondre un circuit intégré. C'était en fait un relent de fumeurs californiens, écologiques, mélangé avec la biotechnologie. Certains comme les fondateurs de Genex, je ne sais plus si ça existe cette entreprise, mais enfin, à l'époque ça existait, comme Kelvin Ulmer, s'était dit, ça serait pas mal de programmer génétiquement une bactérie pour qu'elle puisse faire ce que les chimistes avaient du mal à faire, c'est-à-dire les circuits de Forestier Carter. Alors, c'était l'idée, c'est une idée. Bon, on est dans les penseurs, là, on n'est pas dans les choses réelles, on est dans les penseurs. Et cette idée-là avait enthousiasmé au moins Jean-Pierre Reynaud et Joël de Ronay aussi. Joël, je vous rappelle, a travaillé avec Monod, donc il y a aussi une filiation par là. Et ça avait enthousiasmé en particulier Jean-Pierre Reynaud, qui était directeur d'innovation à Roussel-Duclaf et qui connaissait très bien la biotech de molécules, qui était une des meilleures, je crois, en Europe à l'époque pour un fabricant biochimique. Et donc, ils auraient voulu effectivement que leurs molécules, toujours pareil, cette association molécules et vie, leurs molécules servent à l'électronique moléculaire. Voilà. Bon, alors avec Jean-Pierre Launay, effectivement, on a écrit en 84 le premier papier sur l'électronique moléculaire. En essayant de regrouper un peu toutes ces informations pour essayer de faire une petite analyse plutôt type machine en disant quelle est l'unité minimale, c'était à peu près le thème du papier, l'unité minimale qui pourrait servir à faire une petite machine à calculer. Voilà, c'était l'idée un peu en prenant Carter. C'est un petit papier en 95. Et notre pote Drexler arrive en 86. Puisque arrive en 86. Alors, Drexler, lui, pour l'électronique nucléaire, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la première fois que je l'ai entendu, c'est au deuxième congrès électronique moléculaire, lui, son idée, c'était de dresser des virus avec un fouet. Ça, je me souviens très bien, ça avait marqué. On avait le même âge. On était les deux plus jeunes loups de l'histoire de la conférence, donc on était un peu comme ça. Et je me souviens très bien de son exposé. Il était sur la scène, il y avait un transparent, il y avait un virus sur une surface. Bien sûr, on utilise toujours ce virus qui ressemble à un LEM, qui est le bactériophage, je ne sais pas quoi, là. Fils en 74, je crois, qui a atterri, il avait mis un petit fouet puisqu'il voulait faire avancer le virus. Donc là, ça, je me souviens, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Bon, après, on a beaucoup discuté avec Eric, mais. Et donc, après, je pense qu'il y a eu deux parties chez Eric Dexter, cette volonté mécanique et molécule, on voit bien, mécanique et molécule, et l'autre partie qui était aussi ce relan d'écologie. C'est que si vous regardez bien, il a quand même envie, dans son livre, il raconte quand même. Qu'il a quand même envie de faire des machines qui produisent des machines, mais pas par hasard pour dire des machines, parce qu'il a dans l'idée, un peu comme Bernadette a écrit un petit bouquin sur la réduction de la matière par rapport à la technologie, de réduire au maximum le nombre d'atomes pour faire une machine. Voilà. Et petite anecdote que vous pourrez lire, je fais de la pub pour mon livre qui un jour peut-être va apparaître, que vous pouvez lire dans mon livre, c'est que vous découvrez après que Al Gore s'est branché a invité Eric Drexler à une conférence en 92 au retour du sommet de la Terre pour lui demander comment faire pour que ces technologies existent. Et il se trouve, malheureusement, je dirais, pour ceux qui étaient intéressés par l'écologie et par la production des machines avec le moins d'atomes possible, que ce mélange Al Gore-Drexler, vous trouvez, c'est dans les conférences du Sénat 1992, il y a la conférence entière de Drexler, et puis il y a aussi les questions d'Al Gore, et comment Al Gore découvre d'un seul coup que finalement la miniaturisation, c'est pas tout, et qu'on peut renverser la machine et partir du bas plutôt que partir du haut. Et ça joue en quatre questions, et quatre réponses. Et malheureusement après, peut-être pour l'électronique moléculaire et pour la nanotechnologie au sens atome par atome, tout ceci a été balayé par une opération politique une fois que Al Gore a été élu, parce qu'en fait il se trouve que Al Gore a été chargé de... C'est un énorme projet comme ça font les Américains tous les 20 ans, parce qu'à chaque fois, comme nous d'ailleurs, mais nous on ne le fait pas, leur équipement universitaire est à bout de souffle. Donc il faut trouver un autre projet énorme pour refinancer ça. Et Al Gore a été chargé après la guerre froide de relancer la machine. Il aurait pu glisser du Drexler dans son plan, mais les industriels sont tombés dessus et c'est parti du côté de la NNI et donc des matériaux, je dirais. Voilà. Et ça s'est joué en 3-4 ans et Drexler a été écarté et c'est d'autres personnes qui sont... Et on retrouve tout ça sur le web en fouillant un peu. Et l'histoire est assez éloquente. Et d'ailleurs, tout le monde s'est fait avoir dans le monde entier, tout le monde a suivi comme un seul homme cette nouvelle définition de la science des matériaux et du nano. Enfin, bref. Et j'ai une petite arme à l'œil, là. Non, ça m'aide beaucoup parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes, je suis moins jeune, notre âge dans les années 80, étaient très enthousiastes par ce mélange, en fait, de produire des machines avec très peu de... Même de l'idéal, de cueillir un ordinateur sur un arbre. Ça aurait été génial. Enfin, ça aurait été bien. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est que Roussel-Duclaf, Elfatitaine, ont cru à ça pendant un certain temps. Moi, j'ai été... un mal de financement avant de trouver une bourse de thèse, et Russell Le Claff m'a donné pendant un an une bourse pour étudier ça. Donc ils y croyaient. Et puis après, Russell a été racheté, enfin bon, bref, les aventures industrielles font que... Donc tout ça, je remercie Jean-Pierre Reynaud et Hélène Bérard à Elf Aquitaine, qui m'ont aussi employé pendant un an sur ça. J'ai toujours lu, j'ai une doc comme ça, sur ce qu'on écrivait à l'époque, dans les années 80, sur l'électronique moléculaire à Elf Aquitaine. Donc, c'est... Enfin bref. Bon, voilà. Donc ça, c'est... On y pensait, c'est tout. Donc je m'arrêterai en 86, parce que il y a une autre personne qui est importante à 80, c'est plus en 87-88, au niveau de la pensée, et on rentre un peu dans le concret, c'est Govalescu, je crois que ça s'appelle le gars qui est dans Nature, a publié des... Govalescu, qui était à Bell Lab, qui est le premier à eu l'idée, alors je sais pas si c'est un hasard, d'utiliser la pointe pour marquer une surface. C'est en 87, je crois. Mais ça, on passe à l'autre partie, qui est la partie, je dirais, la partie premières expériences. Donc voilà, donc on a parcouru, vous voyez, c'est un environnement intellectuel au niveau de ceux qui pensaient à ça, qui est gigantesque, où tout le monde a apporté sa pierre, mais il n'y a pas de coordination ni de complot mondial à ce sujet, si je veux dire. C'est tout le monde. Je pense que c'est quand même endémique qu'en fait on ait envie de faire tout petit. Donc à chaque époque, chacun s'y penche. Et puis on y va. Par contre, ce qui est moins endémique, c'est par rapport à ce que je viens de raconter, c'est l'inversion qui va se produire à cause de cette histoire des années 80 de la biotechnologie et pseudo-réduire le nombre d'atomes, c'est renverser la pensée de construction des machines en disant partons atome par atome, montons et regardons à partir de quand je peux faire une machine. Voilà. Ça a été nouveau, c'était l'inversion qui s'est produite à ce niveau-là. Alors ceci dit, autre chose pour l'histoire, en restant un peu français, toutes ces années 84, 85, 86, même jusqu'à 2001, sont marqués en parallèle par une analyse qui a été faite scientifiquement et qui a été honnêtement faite, je pense, même si les contributeurs comme honnêtement, on était en moyenne 20 à chaque fois, des rapports OFTA. Vous pouvez lire tout ceci, étape par étape. Il y a eu 3 rapports OFTA. Le premier, c'était électronique moléculaire, dont le responsable, c'était Jean-Pierre Reynaud, ou c'est du CLAF. Je crois que c'est 88, je ne sais plus. 88, qu'à ça. Le deuxième qui était plutôt nanotechnologie, c'est 91. Et le troisième qui était nanomachine, c'est 2000-2001. Voilà, donc il y a eu à chaque fois une analyse. Et le jeu, c'était pour ça qu'on a appris beaucoup de choses sur l'histoire de tout ceci, en analysant complètement. C'était de mettre 10 industriels, 10 universitaires, de les mettre ensemble dans une même salle pendant 2 ans, une fois par mois, et qui discutent de ces sujets-là. Bien sûr, malheureusement, l'OFTA.
OFTA, c'est Observatoire
français des techniques avancées. Qui était dirigé par M. Dupuis. Pas
Jean-Pierre.
Voilà. Donc là, vous trouvez beaucoup de références. D'ailleurs, dans le premier électronique moléculaire, qui est un bouquin jaune, vous trouverez une analyse historique complète de l'électronique moléculaire, de jusqu'à Z, et tous les articles qui s'empilent, etc. dedans. Voilà. Alors, je suppose, prenons par exemple le cas de Barjavel dans la littérature, je méconnecte totalement la littérature de science-fiction américaine dans le détail, comme je connais Barjavel. Je suppose que si on se penchait dans les années 60 sur la littérature de science-fiction, on trouverait pareil aux États-Unis et pareil en Angleterre et pareil en Allemagne. Je pense que c'est ça tournait autour de ça. Souvenons-nous du film Voyage fantastique, qui est dans la même période, donc... Chaque continent avait ce genre de pensée, en fait. Bon, l'expérience préliminaire. Alors, j'ai mentionné pour le moment ce que je pense être l'expérience préliminaire qui a échoué. Il y en a 3. Où là, effectivement, ce qu'on va avoir besoin comme expérience préliminaire pour vraiment remplir la fonction, aller voir sur un seul atome une seule molécule, non plus aller voir, non plus, c'est aussi manipuler et toucher. On reverra les sondes microscopiques qui est parallèle, mais qui n'est pas simple, qui est non, idéalement la microscopie, c'est non invasif, on ne doit pas modifier, on doit juste observer et faire une image, alors que là c'est vraiment touché. Il y en a 3. La première, c'est en 87, j'y ai participé, mais ça a échoué, tant pis. Hein. C'est, on a essayé de mettre on a mis des molécules sur une surface avec Aviram, c'est quand j'étais en postdoc à IBM, et on a mis une pointe de microscope épithéliale dessus. Bien sûr, il a fallu que la microscopie épithéliale soit là, qu'elle ait fait ses preuves pour faire des images. Donc, on verra ça dans la partie histoire de la microscopie. Enfin, ça, il a fallu que ça. Bon, on a eu l'idée, parce que Aviram était tellement embêté que tout le monde lui dit c'est impossible, qu'il a eu l'idée avec Phil Seidel, de dire, ben, achetons en interne, parce que c'était acheté en interne à l'époque, les premiers microscopes effet tunnel venant d'Europe qui circulent à l'intérieur d'IBM, achetons-en un, et à la limite, la première électrode qui est la surface, elle va rester là, et la deuxième qui va être pour connecter, ça va être la pointe. Donc on va réduire la taille d'une électrode pour l'adapter à la taille d'une molécule. Et on a monté une expérience pour essayer de faire commuter une molécule en mettant à la pointe sur une seule molécule, en se débrouillant à l'époque comme on pouvait, parce que c'était un peu avec des clips et des ressorts et un peu de vide. Enfin bon. Et on a fait un papier, on a cru avoir vu que la molécule commutait, en fait c'est pas du tout ça. Enfin bon. L'idée y était, ce qu'on a vu en fait, c'est quelques atomes d'or qui partaient de la surface, passaient à travers la couche moléculaire, et faisaient un pied court-circuit avec la pointe. Mais l'idée d'aller réduire une électrode pour aller se positionner sur la molécule était là, alors que l'autre version qui était l'électrographie, on verra après l'histoire de la pression de fabrication, avait bien du mal à arriver là. Les seules propositions qu'il y avait à l'époque dans IBM, parce qu'il n'y avait qu'IBM qui croyait à ça, il faut bien le dire, parce que c'était en interne, il y avait un moteur interne, il n'y avait aucun moteur externe, il n'y avait qu'un moteur interne qui était un peu alimenté par Aviram, c'était en fait de casser un fil. Ça, on le retrouve parce que ces expériences comme ça existent maintenant, casser un fil en deux et mettre une petite goutte pour que les molécules tombent dedans. Puis voir ce qui se passait. Voilà. Donc ça, c'était ce que proposaient les microélectroniciens d'IBM à l'époque. Ils étaient tout à fait sceptiques sur le reste. Et donc, avec Harry, il m'a proposé, quand j'étais en postdoc, de monter cette expérience. On a essayé, bon, ça a échoué. Enfin, partiellement, parce qu'on a appris plein de choses, mais bon, l'objectif final n'était pas rempli. Mais avec Andrew, c'est Gérald, ils y sont maintenant. Ça commute dans tous les sens sur une molécule. Nous aussi, enfin bon, c'est, à l'époque c'était. Et alors, le deuxième, c'est Avouris, qui lui a fait un progrès de plus, c'est qu'il a Faidon Avouris, qu'on oublie dans l'histoire quand même. Et lui, il a réussi en 88, je crois que c'est en 88, il a fait un papier dans Nature, nous c'était un peu plus modeste, qu'un petit letter, dans Nature, à faire l'image d'un atome de bore qui est un dopant du silicium, 1-1-1. Et à mettre la pointe dessus et à faire une I2V, carte excès court en tension, sur un seul atome. C'est un papier de Science, je crois, en 88.
J'ai pas compris.
Oui, il a. Ben, tu prends la surface, comme nous, et puis tu décapes, tu coupes la surface, tu la décapes complètement, tu fais apparaître une surface de silicium dans le vide pur, et ouais. Par endroit, tu as les deux pentes qui sont des atomes de bore qui apparaissent.
D'accord.
Alors, bien sûr, ils sont dans la masse, mais quand tu coupes, au hasard, tu en trouves toujours quelques-uns, et il met la pointe dessus, et il voit une carte excès court en tension complètement asymétrique, donc carte excès d'une diode. Parce que ça fait une diode avec un atome et une surface. Pour des raisons de dopage, etc. Et malheureusement, ce résultat-là a tué complètement le résultat d'Aviram. Bah oui, parce que les physiciens lui sont tombés dessus en disant « Mais on va pas s'embêter avec des molécules. Tu fais ça avec un atome dans le silicium. » Et donc, voilà. Donc, ayant participé à ce débat avec Landauer, grand physicien, qui était dans les parages, qui ne pouvait pas avoir une molécule sans une surface non plus... Donc il faut dire que le milieu de la microélectronique et des physiciens de microélectronique sont des milieux particuliers où tout ce qui est organique à l'époque ne faisait pas bon ménage avec l'inorganique. Et en particulier, il y avait de gros débats, pour faire une déviation très intéressante, sur l'effet tunnel. L'effet tunnel avait valu des prix Nobel comme Gavert sur des systèmes inorganiques, aluminium, aluminium oxydé, aluminium, petite jonction tunnel, on voyait ça. Quand Kuhn avait voulu mettre une couche monomoléculaire à la place de l'isolant pour voir l'effet tunnel, personne n'y croyait. Parce que c'était de la matière organique et ce n'était pas inorganique. C'est les années 70. Et quand Harry faisait pareil, c'était la même chose. C'est-à-dire, c'était pas possible qu'un électron passe, alors que dans la version, c'est assez marrant d'ailleurs, les cloisonnements des disciplines, alors que dans d'autres disciplines de la chimie, de l'électrochimie, les gens savaient que les électrons, entre guillemets, voyageaient à travers une molécule. Mais ça n'avait pas passé du côté des physiciens. Donc c'est pour ça que ce projet a été... ça c'est donc le deuxième résultat. Et le troisième, c'est Govalechko, la nature, où on semble pouvoir effectivement avoir un petit manipulation possible, modification locale de la surface. Donc c'est les trois premières expériences. Alors, je ne mentionne pas, il y a des gens qui avaient essayé de faire des lithographies pour réduire en taille la jonction pour mettre une molécule au milieu, mais il n'y a pas de molécule au milieu, donc de toute façon, c'était pas... Voilà, donc ça, c'est les premières sciences féminines, je m'arrêterai là. Après, ça va exploser, donc c'est pas la peine de faire un exposé là-dessus. Ça, c'est le point 3. Alors, le troisième point plus intéressant, c'est l'histoire de la microscopie. parce que là aussi il faut regarder les envies des gens et où on en est maintenant. Alors, l'histoire de la microscopie, au niveau de l'histoire de la microscopie, bien sûr, voir un atome ou voir une molécule. Alors, il y a deux monsieur, dont un a été mentionné la dernière fois, s'appelle Rouchka, et l'autre s'appelle Müller. Ces deux monsieur étaient tous les deux jeunes étudiants à Siemens, en Allemagne, dans les années 30. Et ces deux monsieur, parce que je connais bien au laboratoire un monsieur qui s'appelle Peter Hooks, âgé, qui connaît l'histoire de la microscopie électronique, donc on en discute beaucoup, apparemment se sont retrouvés par plusieurs débats à la cantine, et ils se sont bourrés le mou, comme on dit actuellement, quel serait le premier qui verrait un atome. Mais pas voir dans l'espace réciproque, c'est-à-dire pas faire une image de diffraction, voir dans l'espace réel. Et les deux se sont entêtés. Ça a valu deux microscopes, un qui est bien connu de la microscopie électronique, inventé en 1932, qui ne donnera une image d'un atome qu'en 1972, pour la première fois aux États-Unis. Et un autre s'appelle Müller, c'est une microscopie ionique de champ, une microscopie à émission de champ, qui est moins utilisée, évidemment, qu'une microscopie électronique, pour tout un tas de raisons, et qui, lui, a été inventée par Müller, et qui donnera la première image, peut-être que vous avez tous vu, parce que dans les lycées, les collèges et partout, ça a diffusé, les premières images d'atomes de tungstène en 1953. C'est ces fameuses images de myriades de points, de circulaires, de points blancs, que l'on voit, qu'on voit partout, en fait. Il s'est amusé des sciences ici. Partout ça y est, c'est très très beau, et c'était en 1953. Et la première image d'une molécule, par ce même monsieur, un peu par hasard, a été en 1957, ces molécules de phtalocyanine de cuivre déposées sur la pointe du microscope à émission de champ. Et c'est très beau parce que cette image d'ailleurs ressemble exactement à s'y méprendre à une image de microscopie à effet tunnel, même si c'est absolument pas la même technique. C'est très très beau. Et malheureusement, cette technique est un peu délicate, un peu torturante pour les objets qu'on dépose, donc elle n'a pas été utilisée, mais c'est la première fois qu'on voyait, au sens faire une image dans l'espace réel, des molécules. Bon, Müller s'est engagé, bien sûr, à essayer de faire des images d'ADN, bien entendu, et là, c'est un peu plus, je dirais, foireux. Mais quand même, à l'époque, on remarque bien, si vous lisez les papiers dans les années 50, à ce sujet-là, les commentaires, les gens ne comprenaient pas pourquoi on voyait ça. Certains disaient c'est impossible, d'autres disaient c'était du bruit, et d'où c'était des interférences. Parce qu'il y avait quelque chose qui traînait, et d'ailleurs qui traîne toujours, d'après ce que j'ai entendu avec Gérald Dujardin et Lévi Leblond, du fait que pratiquement une molécule, c'est un ectoplasme. C'est quantique. Ça ne se voit pas, ça ne se manipule pas. Puis même si ça se manipule, on ne sait pas où elle va. Et donc on lit vraiment dans le papier de 57, parce que le papier de 57 fait partie d'un gros volume de conférences, on lit d'autres papiers qui disent « mais ce n'est pas possible ». On ne peut pas voir une molécule. Mais pourtant, bon, et cette microscopie a été oubliée en 72, je crois que c'est un truc qui s'appelait Carvey qui a fait un papier dans Science en 72, où pour la première fois on voit en microscopie électronique, cette fois-ci vraiment en microscopie électronique, en transmission de microscopie électronique, on fait l'image d'un atome. Et mon labo, c'était pas mon labo, mais la boule microscopie électronique, grand centre mondial de microscopie électronique à Toulouse, qui a fait les plus gros microscopes électroniques dans les années 60, a vu aussi une molécule pour la première fois. A vu, comme si on voyait l'ours dans les Pyrénées. a vu une molécule pour la première fois, j'ai regardé en 79. Mais en fait, faut bien regarder en microscopie électronique, ce que l'on voit, ce sont des marquages d'atomes lourds à l'intérieur d'une molécule organique. On ne voit pas le squelette organique de la molécule en champ direct. Des Japonais, dans les années 70, ont vu en champ réciproque un cristal complet de phtalocyanine. Mais là, c'est le cristal. On passe le faisceau, on fait la diffraction et on reconstruit l'image après. Mais vraiment, dans le champ direct, ça a été 79. Alors, un petit truc qui est passé inaperçu dans les années 70, c'est qu'un élève de Müller, lui, s'est amusé en changeant la température. Parce que en microscopie ionique de champ, en microscopie à émission de champ, ce qui compte, c'est la pointe et comment les électrons sont émis de la pointe et passent à travers les atomes qui sont déposés sur la pointe. Ça, c'est mis à l'émission de champ. Et l'autre version, c'est il y a des atomes de gaz rare qui arrivent sur la pointe et se collisionnent à la pointe et se ionisent en échangeant un électron. Et à ce moment-là, dans un champ électrique, ils sont projetés sur un écran. C'est un rétroprojecteur à ions, si vous voulez. Et dans les deux cas, on peut observer vraiment à l'échelle atomique ce qui se passe sur la pointe. Et ce qu'ont étudié les étudiants de Müller, dont un monsieur qui s'appelle Song, je crois, qui est maintenant quelque part, je crois, à Taïwan, en fait, ce qu'ils ont étudié, c'est comment un atome différent de l'atome de la pointe saute de site en site. Et c'est des papiers des années 70, où ils changent un peu la température et le champ électrique entre la pointe et l'écran, et on voit des trajectoires atome par atome qui se déplacent. Ce qui prouvait qu'en fait, que l'objet atome n'est pas un ectoplasme avec une fonction d'onde, un paquet d'ondes qui se dilue, qu'on ne voit plus, mais c'est vraiment un atome. Et ce n'était pas une manipulation dans le fait où il ne touchait pas l'atome, il ne contrôlait pas sa trajectoire, mais c'est une manipulation dans le sens où on voyait l'atome sauter de site en site. Ils font des statistiques de diffusion, enfin, etc. C'est vraiment la première fois où les gens, je dirais, s'amusent à jouer avec un atome à la fois, même si c'est statistique. C'est pas, vous ne pouvez pas envoyer l'atome dans une telle direction sur la pointe. Donc, vous voyez, j'ai même eu tendance dans l'histoire de la microscopie à aller vers autre chose que la microscopie et essayer de bouger un peu ce que j'ai sous la pointe. Et donc, les Japonais. Et puis, enfin, l'invention du microscope à effet tunnel. Alors là encore, il faut faire attention. Non, le microscope à effet tunnel est un enfant, un petit bébé de la microélectronique. Il n'y a pas de problème. C'est effectivement pour résoudre un problème particulier de microélectronique, de défaut sur des surfaces. Ils ne s'en sortaient pas à les caractériser avec la microscopie électronique. Qu'ils auront cherché un autre moyen de faire une image d'une surface pour regarder les défauts. Et ils sont tombés sur une invention, qui est la microscopie à effet tunnel, invention qui, si on regarde bien les cahiers de labo de Binning, devait donner une résolution pas très bonne, puisqu'ils avaient sous-estimé dans leur première estimation, ils pensaient que le rayon de la pointe, c'était le rayon de courbure de la pointe, et qu'il n'y avait pas d'atome au bout, et que la résolution, ça serait à peu près 45 angstroms. C'est ce qu'on voit dans le... Parce qu'en fait, ils prenaient une vraie pointe, une belle pointe de stylo à billes, ils oubliaient qu'au bout, il y a toujours un atome. Là, il y a une molécule. Il y a toujours un atome. Voilà, donc c'est ce qui a donné une meilleure résolution que ce qu'ils pensaient. Puis après, s'en suivit un ensemble d'images. D'abord, les marches. Ils n'ont pas tout de suite vu des atomes. Au sens, la pointe ne s'arrête pas localement, pas par pas, sur des monts et des vallées correspondant à des sites électroniques de surface. Donc d'abord, c'est des atomes. Après, c'est la surface de silicium. Puis après, les surfaces d'argent. Et puis après, les questions sont venues, c'est toujours bizarre, c'est qu'ils avaient eux aussi envie de mettre quelque chose sur la surface. Pas simplement de résoudre le problème qu'ils avaient, qui était structure de surface et défaut, mais mettre autre chose. Et autre chose, c'était quoi? Des molécules, des virus, de l'ADN, tout ce qui passait sous la main. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la même chose que l'histoire de la microscopie électronique. Le problème technique qui s'est posé dans cette prise de photo, c'est d'amener les molécules sur la surface. On voit bien en microscopie électronique, microscopie ionique de champ, la difficulté que les gens ont eue à stabiliser les préparations pour amener l'objet devant la caméra, si j'ose dire. Et en microscopie effet tunnel, c'est exactement pareil, et ça continue de jouer des tours en ce moment d'ailleurs, c'est très compliqué. La phase de lancement, si j'ose dire, Andrew, on sait quelque chose, la phase de lancement pour aller amener des molécules au bon endroit sur la surface, est un problème intéressant. Malgré ça, la première image d'une molécule, qui est toujours la même d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, parce qu'elle avait une réputation d'être très costaud au niveau de la température, de la sublimation, parce qu'on chauffe de la poudre pour faire sublimer les molécules dans le vide, donc il faut chauffer fort, c'est une phénocyanide de cuivre. Pour la petite histoire, phénocyanide de cuivre, vous la trouvez dans les sacs poubelles, parce que c'est le colorant des sacs poubelles, qui donne cette belle couleur bleue aux sacs poubelles. Donc, et c'est une molécule qui est très solide, et donc comme elle est très solide, ben, c'est elle qui a été imagée pour la première fois à 57 par Muller, et c'est elle qui a été imagée pour la première fois par Jimczewski à Zurich en 87, etc. C'est une molécule vraiment... C'est pratique d'ailleurs parce que comme c'est toujours la même, on peut la suivre image par image. Sa forme change, son aspect change, mais c'est l'objet molécule, dirait Bernadette. Voilà, et puis après sur les champs aussi, on a remis une petite couche, c'est-à-dire de molécules. Alors là, c'est là qu'on rentre dans le débat, c'est quelle est la forme de molécule, qu'est-ce que ça veut dire faire une image de molécule. Par exemple, si vous prenez sur les Chiang, elle a mis du benzène coadsorbé avec autre chose sur une surface de rhénium, surface de rhénium qui est une face de symétrie 3, et la molécule a normalement symétrie 6. Mais les formes de calculer, il y a aussi certaines formes qui seraient de symétrie 3. Et elle a vu des formes de symétrie 3. Et tout de suite, elle a dit qu'Eculé avait raison dans son papier PRL de 89. En fait, ce qu'elle a oublié, c'est qu'on voit aussi la surface. Et que la symétrie de l'image est imposée par la surface et pas par la molécule. Donc, ce qui a lancé un énorme débat sur la compréhension de ces images. Qu'est-ce qu'on voit en microscopie en effet tunnel? On a déjà la même chose en microscopie électronique, mais un peu moins dramatique, parce que la pointe est très loin, là, c'est en champ lointain. Mais là, c'est vraiment un problème intéressant, où plein de gens continuent à travailler d'ailleurs dessus. Voilà, donc ça c'est l'histoire des imageries. Alors, un dernier point sur l'imagerie, c'est qu'effectivement les gens sont intéressés à des objets beaucoup plus gros que toutes molécules plates, comme l'ADN, comme les protéines, comme les virus. C'est en particulier Binning qui s'est beaucoup amusé à essayer de faire une image d'un virus. ça marche pas beaucoup. Mais ça a un petit retour, c'est qu'on est retourné sur un point intéressant, c'est qu'une molécule a toujours dans l'imaginaire, c'est un peu comme le plastique, l'image que c'est isolant, que le courant passera pas à travers, alors que Sten Gorgui avait l'intuition inverse. Et travailler sur ces objets comme les protéines a permis d'affiner un peu notre savoir sur comment les électrons passent à travers une protéine ou à travers un gros objet. En particulier, je me souviens des gros débats qu'on a eus avec Rohrer et puis avec tout un tas d'autres personnes sur de la paraffine, prendre la bougie, hein, c'est la paraffine, qu'on préparait en fine couche, la paraffine c'est une longue chaîne alcane, donc en fine couche, et pourtant le courant tunnel passait à travers. Donc là, ça posait des problèmes intéressants de physique et de chimie, parce qu'on peut s'amuser à changer la molécule pour que ça passe un peu mieux. Et donc ça, c'est des choses importantes qui rentrent maintenant en jeu dans l'imagerie. Mais on peut dire qu'on a maintenant des techniques d'imagerie pour voir un atome et une molécule qui sont en champ lointain, c'est-à-dire qu'on peut faire de la diffraction et reconstituer une image, etc. Ou en champ lointain, en faisant du balayage ou de la diffraction, on voit un objet, mais là, c'est très mal commode. Par contre, le STM permet, et ses dérivés, hein, permet d'avoir des images très précises à l'échelle, je ne sais pas, en XY, c'est 0,1 angstrom ou chose comme ça, la pixelisation, je dirais, au sens photographique de ces images. Il faut faire attention, dernier commentaire, ce ne sont pas des images réellement, ce sont des lignes de balayage, des lignes de palpage, si j'ose dire. On reconstruit une image sur ordinateur. Pour avoir assisté au premier découpage à la paire de ciseaux pour reconstituer une surface scan par scan, je peux vous dire que c'est beaucoup mieux d'avoir un ordinateur où l'image s'affiche directement. Parce que enregistrer sur l'enregistreur mécanique, ligne par ligne, le balayage de la pointe, découper la feuille de papier, la coller sur un carton et la mettre dans ce sens-là pour faire un profil, bon, ça se fait une fois, et après, les logiciels, c'est là qu'a été la puissance d'IBM, c'est qu'IBM a mis, surtout à Watson, à New York, beaucoup de gens sur la partie logicielle pour pouvoir avoir des vraies images, au sens, vraies images, pardon, de la navette, avoir des reconstitutions qui donnent sur un écran une image. Voilà. Ça, c'est pour images, atomes et molécules. Là, j'ai oublié quand même de citer un grand physicien français qui, en 1962, devant les cinq académies, l'Institut de France, un discours du 25 octobre, jeudi 1962, devant les cinq académies, c'est M. Gaston Dupuy qui disait, en 1962, j'ai plus mes lunettes, j'ai besoin de lunettes. Attends, je t'en prie.
Ah,
oui,
l'homme augmenté.
Oui, l'homme augmenté, c'est ça, je n'ai pas compris. Ah oui, voilà, c'est ici. Irons-nous jusqu'à la vision des atomes eux-mêmes ? Sans doute n'est-il pas déraisonnable de penser que ce but pourrait être atteint dans un prochain avenir.
On en trouvait plein, quoi.
Oui, voilà. Ouais. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que la pensée intellectuelle même dans l'imagerie était là. Et le petit débat juste, c'est qu'effectivement, Gaston Dupuy était français, Rouge K. Müller était allemand, et que, entre les deux nations, si j'ose dire, les années 60 étaient encore sujet à conflit scientifique. Voilà. Bref. C'est pour ça qu'il ne mentionne même pas dans ce discours-là, même dans d'autres publications, il ne mentionne même pas les faits d'armes des Allemands qui avaient effectivement atteint, dans les années 60, avaient déjà atteint. Mais il faut regarder une chose, c'est que la microscopie, bon, beaucoup de personnes, surtout à champ lointain, c'est un objet sur une plaque de préparation et un objectif qu'on regarde. Or, Müller, c'était l'inverse, puisque je plaquais, si j'ose dire, je plaquais l'objet à regarder sur la source de lumière. C'est comme si pour voir une bactérie, j'allais mettre la bactérie sur l'ampoule pour faire l'image en microscope. Et ça, pour certains, c'est pas de la microscopie. Voilà, c'est tout. Pourtant, ça existait. Bon, ça, c'était pour l'histoire de l'image. Vous voulez l'histoire, je vous en donne. Donc ça, c'est l'image. Ah, maintenant, on est au point 4, qui est la sémantique du préfixe nano. Ça m'amuse. C'est mon petit... Alors, si vous étiez né dans les années 60, alors vous devez être... Quel âge vous avez dans les années 60? Les années 60, si vous avez... Bon, si vous aviez 4-5 ans dans les années 60, à peu près, à vue de nez, vous auriez pu être abonné à un journal, je me suis payé, qui s'appelait le journal de Nano et Nanette.
Mais c'était plutôt pour les filles.
Les deux, Nano c'est monsieur, et Nanette c'est les garçons. Les filles, pardon. Voilà. Non, c'est pas cette histoire, mais pour vous dire que... Alors, je ne sais pas du tout si, en fait, le titre... Je ne sais pas pourquoi c'est ce micro-là. J'en ai acheté 4 de la collection. Et le premier numéro, par hasard, est paru en 59, ce qui est extraordinaire. ça m'amuse beaucoup. Enfin, bon. Alors, malheureusement, les dessinateurs, les auteurs de cette bande, ces choses-là, sont morts. Donc, je ne sais pas... On est tombé vraiment par hasard là-dessus. Alors, on a... peut-être. Et alors, est-ce que c'est parce que dans l'italien, il y a effectivement des racines avec nano, etc., et que nanette, je peux le réduire à nano pour par jeu de mots. Enfin, je sais pas d'où ça sort, mais c'est quand même un curieux hasard. Alors, revenons plus sérieusement à la sémantique du mot nano. Alors, soit vous voulez une histoire longue, soit vous voulez une histoire courte sur l'histoire de nano. Si vous voulez une histoire longue, vous l'aurez peut-être dans la recherche un jour en détail. Pour tout un tas de raisons, ce chapitre a été censuré par mon éditeur. Non, je le cite parce que s'il m'écoute, Nicolas Ditkovski, il saura que je ne suis pas content. Bref, non, mais faut pas. En fait, ça nous a donné beaucoup de mal, ce petit chapitre. Alors, le nom nano apparaît pour la première fois avec deux N, c'est mon petit data, les deux N et un N, apparaît pour la première fois en l'an 600 avant Jésus-Christ. C'est le nom d'une musicienne qui jouait de la flûte, et c'était en Grèce, en Ionie, à peu près la même région de Grèce d'où sont venus les gens qui ont colonisé Marseille. Vous allez voir, c'est pas par hasard, il y a une relation très forte entre Marseille et Nano. Vous allez voir. Non, mais c'est amusant, tout ça, ça peut être... Alors, chose amusante aussi, je ne ferai pas de psychanalyse de l'auteur qui va suivre. L'auteur de ce texte, où on trouve pour la première fois Nano avec deux N, Nano est un nom propre, apparemment, hein, puisque c'est le nom de la muse grecque qui a existé ou pas, je ne sais pas. Il s'appelait Minerme de Colophon, et il se trouve, si vous regardez l'histoire grecque ancienne, on l'a travaillé beaucoup avec la femme d'un copain qui enseigne le grec ancien à Toulouse, c'est le premier poète grec qui a fait des poèmes érotiques. Il peut rien. Il y en a une qui jouait de la flûte, et l'autre qui... Et voilà, donc bon, c'est la première fois. Et il se trouve que par hasard, le roi qui vivait à cette époque-là à Marseille s'appelait Nan. Je ne sais pas si c'est un hasard. N-A-2-N. Et il avait une fille à marier. Et au cours de c'est la légende, je mentionne la légende de la création de la ville de Marseille, parce que c'est la légende de la création de la ville de Marseille. Il avait une fille à marier. Et au cours du banquet, cette fille, au lieu de choisir un local, a choisi un grec venant de la province d'Ionie. Et dans le banquet, ont été servis des petits gâteaux, et ces petits gâteaux sucrés s'appelaient encore du nano au temps des Romains. Nano avec deux N. Voilà, ça c'était le début de l'histoire de nano. Ensuite, on perd totalement, alors vraiment totalement, la trace de nano avec deux N. Il y avait du nain, effectivement, en latin, qui traîne, on verra la confusion qu'il y a entre le latin et le grec, latin un seul N et grec deux N. Pourquoi il y en a un qui mettait un N ou deux, j'en sais rien. Peut-être que latin, dans le latin, c'est vraiment un préfixe, alors qu'en grec, c'était un nom, et que, bon, entre les deux, le mariage, c'est pas comment se passer. On perd tout ça. Et la première fois que ça réapparaît dans la littérature scientifique, c'est en 1911. On a eu beaucoup de mal, mais on a réussi à se procurer le papier. C'est en Allemagne, c'est un monsieur qui s'appelle Lohmann, qui était Hans Lohmann, professeur de zoologie à l'université de Kiel. L'université de Kiel, gentiment, nous a, au bout de quelques négociations, photocopié dans ses archives le papier en question. Et parce qu'il ne voulait pas l'ouvrir, parce que ça aurait cassé le livre, donc il m'a dépassé. Enfin bon, on a réussi à négocier, on l'a eu. Et donc, il dit qu'en fait, ce monsieur observait les algues microscopiques, avec un microscope optique, donc en 1909, mais pour cause. Et il appelait ça nanoplancton avec deux N. Et il dit bien que ça ne lui plaît pas d'appeler ça zwerg, en allemand, c'est pas beau pour lui. Et il préfère utiliser le mot de nanoplancton, nano avec deux N, venant de la racine grecque. Il le dit bien dans le texte. Donc c'est nanoplancton avec deux N. Il se trouve d'ailleurs que de nos jours, vous avez tout un tas de recherches en plancton, en biologie, vous avez, qui sont publiées dans un journal qui s'appelle Journal of Nanoplankton Research, où il y a deux N. D'accord. Donc le mot nano, j'insiste dessus, d'ailleurs pourquoi ? Parce que ça va falloir quelques débats intéressants à l'Académie des sciences dans les années 60 et 70. Voilà. Et donc, il y a, on continue, c'est une lancée, le nano avec deux N va continuer. Alors après, il va y avoir un problème, parce qu'effectivement, dans ces années-là, beaucoup de gens commencent à découvrir des phénomènes physiques qui requièrent, après le mètre, beaucoup de décimales. Et si vous regardez, par exemple, monsieur Musée, les discours Nobel sur les rayons X, vous verrez 0, la longueur d'onde, 0,00000001. Donc il y avait un problème de nomenclature. Et il y en a partout comme ça. Alors, ils ont inventé plein de trucs. Je vous en mentionne quelques-uns. Alors, il y a une unité qui s'est fait le jour à l'époque, c'est le septième centimètre. Le septième centimètre.
Septième.
Oui, 7 et 2, ça fait 9. Oui, 10 moins 9. Bon, mais c'est pas comme nous, on connaît comme ça. Mais l'autre, c'était le micromillimètre, qui était aussi une unité. La troisième qu'on connaît bien, c'est l'angström. Donc, il y avait un problème pour trouver une nomenclature. Donc, il a bien fallu que le Bureau international du poids et des mesures se penche sur la question. Et au cours d'une séance, celle-là n'était pas houleuse. On a bien rigolé en relisant les séances du poids et des mesures pendant la guerre froide, parce qu'il y avait des séances très houleuses, de débats de noms entre les deux blocs qui essayaient de fourguer leur nom et pas celui de l'autre. En particulier en magnétisme, avec Tesla. Ça a été très, très intéressant. Et donc, il y a un monsieur, un soviétique qui s'appelle Grégoire Bourdon, je ne sais pas le nom, mais c'est comme ça, qui en 1956 a proposé d'appeler nano avec un seul n. Vous allez voir pourquoi un seul n, l'unité 10-9, sous-unité du mètre. Il se trouve qu'en fait, ils avaient choisi au Bureau des poids et mesures de dire que les unités grecques étaient réservées à des multiples et les unités latins aux sous-multiples du mètre. D'où le fait que nano a perdu un n. Voilà. Et il se trouve d'ailleurs que comme nano a perdu un n, pico a perdu un c. Parce que piccolo, c'est 2 C. Et pico, dans la nomenclature, c'est un seul C. Donc du coup, heureusement qu'ils sont arrêtés là, parce que sinon, il y a plein d'unités qui perdent une lettre. Donc, c'était... Donc là, c'était maintenant mentionné. Et mais, les biologistes ont la dent dure et le souvenir complet. Ils sont protestés et on retrouve trace au comité consultatif de la langue scientifique et de l'Académie des sciences, présidé par M. Louis de Broglie, de protestation en disant pourquoi on mettrait un seul N à un nano en biologie, alors que nous, on en conserve deux N en particulier en micropaléontologie. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Georges de Flandre, qui était directeur du laboratoire de micropaléontologie à l'école des hautes études, c'est pas n'importe qui, qui en 59 a adressé une lettre à ce comité consultatif de la langue française en protestant et en demandant s'il pouvait continuer à redoubler le N dans le terme nanofossile. Et ils ont bien, je suppose qu'ils ont bien discuté, et l'arrêté qui a été rendu, c'est que la paléontologie, la micropaléontologie et d'autres disciplines de la biologie peuvent garder deux N, merci, tandis que la physique, en particulier la métrologie, la médecine et la physiologie, sont limitées à l'usage d'un seul N. Donc là, boum, c'est terminé. Mais vous trouverez toujours, les biologistes résistent à un N ou deux N. Alors, à part l'anecdote de la vie de ce mot, ce qui est important, c'est de voir que, le mot avec deux N, on aurait pu l'attribuer, entre guillemets, à l'échelle intermédiaire. Moi, j'appelle ça le gros nano. Que les Américains nous ont renvoyé en appelant ça physique mésoscopique, physique de l'échelle intermédiaire. Mais la confusion était telle qu'en fait, tout le monde, progressivement, à part les plus certains biologistes encore, mettent un préfixe nano devant toutes les choses. Pour donner deux sens, même trois sens d'ailleurs, précision de fabrication, quelle que soit la taille de l'objet, je peux faire une table nanométrique au sens que la table aura une surface précise à l'échelle du nanomètre. Mais la table ne sera pas nanométrique. Pourquoi pas ? Je peux faire des matériaux dont la maille élémentaire va grossir, ne sera plus atomique, comme par exemple les celles de cuisine, mais sera moléculaire. Ça sera un nanomatériau. En fait, c'est un abus de langage, parce que ça voudrait dire que c'est un matériau structuré à l'échelle nanométrique. Et nano est passé devant. D'accord ? Je peux faire de la nanobiologie. Là, c'est encore plus flou. Parce que pour l'instant, je ne connais pas de nanobiologie. Je connais de la biologie qui utilise des outils pour aller faire de la microscopie, mais je ne connais pas de nanobiologie ou de la microélectronique qui se marie avec la microélectronique qui descend à 0 à micron, donc à une précision peut-être inférieure, et je ne connais pas au sens unité où je vais contrôler, positionner un objet nanométrique dans une cellule, par exemple, je ne connais pas ça. Et enfin, il y a le sens nano dur, si j'ose dire, moi je vous appelle petit nano. ne faut pas le faire autrement. Je ne sais pas si le comité national langue française dira que petit malheur reconnaît un jour, mais pas. Qui est effectivement que la taille complète de tout l'objet fait quelques nanomètres ou un nanomètre. De l'ensemble de l'objet qu'on étudie. Voilà, donc c'est à peu près les trois définitions qu'il y a. Et bien sûr, la confusion dans tous les sens du terme hein, est entretenue par tout le monde, puisque la mode étant à financer nano, ou nano et nanette, je ne sais pas, effectivement, tout le monde veut s'accoler un préfixe nano. Les seuls que j'ai pas encore vu à trouver, il y en a deux que j'ai pas vu encore s'accoler un préfixe nano, c'est les mathématiques pour le moment et l'économie. J'ai vu de la microéconomie, mais j'ai pas vu de la nanoéconomie encore. J'ai vu du nanomanagement, des nanolois. Oui, il y a des bouquins de dans les bouquins de management que j'ai vu par hasard que j'ai trouvé, c'est marqué nanomanagement. Si tu me l'expliques. Voilà. Pardon ? Non, il y a des nanolawyers aux États-Unis.
Ah oui,
ça existe. Oui, il y a des cabinets spécialisés dans les affaires nano.
Mais c'est pas, ils sont pas des avocats.
Bah écoute, moi tu mets ce que tu veux derrière nano. Et donc là, j'avoue effectivement que là, le mot nano a été un peu mangé à toutes les sauces. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu réapparaître deux autres termes. Et ce n'est pas qu'une blague, deux autres termes qui oscillent maintenant dans la nomenclature, en particulier européenne, qui sont soit les technologies atomiques, qui est mal vu parce qu'atomique ça fait penser à autre chose, soit les picotechnologies, qui est mal vu parce qu'on a l'impression qu'on fait une surenchère par rapport à nano. Et donc on a un problème de définition, puisque nano, mais ce qui est important en science, parce qu'il faut quand même avoir des définitions et des mots corrects correspondant à des domaines corrects, on a un problème de définition maintenant où on voit bien, par exemple, dans le monde de financement à l'Europe, quand les débats à l'Europe, quand il s'agit de définir des domaines, les gens qui prennent des décisions, même en France d'ailleurs, c'est la même chose, ils prennent des décisions, ne savent pas, quand on parle de nanomatériaux, si c'est une molécule, un matériau. Donc ils ne savent pas comment débattre de ceci. Et il y a un problème réel de financement. Et donc là, il va trouver un moyen. On est en ce moment, par exemple, à l'Europe, avec Gérald, par exemple, on a mis en difficulté de trouver un mot qui définisse un programme, qui spécifie réellement qu'on va faire une technologie qui va se baser sur la manipulation atome par atome. Est-ce qu'on appelle la nanotechnologie et pas les nanotechnologies ? Est-ce qu'on appelle la picotechnologie ? Est-ce qu'on appelle la technologie atomique ? Est-ce qu'on appelle la technologie à l'échelle de l'atome ? Il y a un problème. Et d'ailleurs, ça fait penser au problème qu'avaient posé les biologistes au comité de Broglie avant. Il y a un problème de définition. Bon, voilà, ça c'est l'histoire du préfixe nano qui vit bien, puisque je vous rappelle que dans certains grands films à grand spectacle, dont e-robot, Spider-Man, vous avez des nanites, vous avez un personnage qui est le père de celui qui va se faire tuer la première fois là. Il fait de la nanotechnologie. Je vous rappelle aussi que l'iPod, il est nano. Il y a eu des plaintes d'ailleurs, parce que certains ont protesté que Apple utilise le préfixe nano dans le nano iPod, par exemple. Donc il y a ça, c'est donc ça. Le mot nano diffuse amène de la nanolessive. Donc, oui, parce qu'elle est faite des nanomatériaux, donc c'est de la nanolessive.
Picotechnologie, c'est 10.6.
Ah non, pico, c'est 10.12.
10.12, c'est le contraire.
Oui. Si vous rajoutez un C, ça fera 10.6. Pico avec 2 C, donc ça sera plus grand. Non, je rigole. dernier point de l'histoire pour vous donner un dernier éclairage, c'est au niveau de la précision de fabrication. Prendre le nano par le bout, précision de fabrication. Comment les gens sont débrouillés pour fabriquer des choses? En partant du haut, bien sûr, cette fois-ci, parce que si je pars du bas atome par atome, je suis sûr que si je prends une maîtrise de manipulation atome par atome, je vais fabriquer des choses qui, par essence, j'espère, seront à une précision, allez, picométrique. Bon, la distance moyenne entre deux atomes dans un métal, c'est 0,2, 0,3 nanomètres. La distance entre deux atomes de carbone dans une molécule, c'est 0,1, 4 nanomètres. Donc, on est bien en deçà du nanomètre. Alors, en précision, alors je ne suis pas sûr de mon coup, mais il me semble que le premier qui a fait, pour tout un tas d'autres choses, une très belle fabrication, qui est vraiment de la lithographie, même s'il ne l'appelait pas comme ça, c'est Joule, qui, pour faire son petit thermomètre, pour mesurer, enfin, pour trouver l'équivalence travail-chaleur, a gravé, avec une précision extraordinaire, c'est tous les 50 microns, sur un petit tube de verre, des graduations pour faire son thermomètre. Et pour faire ça, il a pris de la cire d'abeille qu'il a déposée sur le petit tube de verre du thermomètre. Il a pris un couteau très très effilé et sous un microscope coulissant, parce qu'en fait son tube n'avait pas un diamètre
constant. Donc il a fallu qu'il corrige un peu à bistaud des nasses, comme on dit dans le sud. Et il a vraiment entaillé la cire d'abeille à des distances non régulières. Et il a attaqué ça à l'acide. Et après, il a enlevé la cire d'abeille. Donc c'est le premier exemple de lithographie avec... alors les gens qui ont essayé de reproduire ça disent qu'on peut arriver à faire une précision de trait de plus ou moins 6 microns espacée de 50 microns. En essayant de reproduire les mêmes types d'instruments que ce qu'il avait, je ne sais pas si on peut le faire. Et il a travaillé, je vous rappelle, 20 ans là-dessus quand même, pour dire qu'une calorie, c'est 418 joules. Monsieur Joule, très mieux. Alors après, c'est tout ce qui va venir avec la lithographie optique. Là, avec les critères de limitation sur la lithographie optique, et avec tous les problèmes, toutes les ruses techniques qui, en fait, utilisent la microélectronique pour passer le critère de la diffraction. Alors maintenant, on en est à mettre, par exemple, de l'eau sur les puces pour faire comme une lentille pour abaisser la longueur d'onde encore. Et la lithographie électronique. La lithographie électronique, c'est intéressant. On nous rabat tout partout les oreilles en disant qu'on fait des traits très petits maintenant. Le premier trait tout petit, un peu à la Joule, a été fait en 1960 avec un microscope électronique en Allemagne. Ce monsieur a écrit, a dessiné vraiment le logo de son institut avec des largeurs de traits de 100 nanomètres de large. Et donc une précision, si on regarde bien en balayage, c'est de 10 nanomètres en 1960. Et ça a été repris par IBM avec un monsieur qui s'appelle Alzakis pour la lithographie électronique dans les années 80 avec une nouvelle résine. Les années 80 d'ailleurs, on obtenait 20 nanomètres de précision de fabrication avec du métal dedans. Et en 90, on est arrivé à quelques nanomètres avec un faisceau d'électrons, mais cette fois-ci sans métal dedans. La précision est importante parce que quand on dit métal dedans, c'est-à-dire qu'on va faire un fil conducteur et qu'on va commencer à faire des circuits électriques, etc. Donc on en est avec un faisceau d'électrons à quelques nanomètres de large. C'est vraiment on fait fondre le matériau avec un faisceau d'électrons. Qu'un fin pinceau. Et maintenant, effectivement, c'est vraiment la limite en laboratoire. Et vous savez tous que la limite industrielle, fantastique d'ailleurs, je suis toujours étonné quand je regarde les process, on arrive quand même maintenant à des traits en production, enfin des distances, sources en production qui vont descendre à 46 nanomètres. En production, des milliards de fois. Ça, c'est quand même une prouesse technique. Ça, franchement, le jour où atome par atome on fera des productions comme ça, ça sera. Voilà, c'est tous les pans de l'histoire. On aurait pu aller de l'autre côté. Voilà.
Merci. Des questions?
Vas-y, Andrew.
Juste un commentaire. J'ai mentionné l'argument, si je puis dire, entre ceux qui acceptaient un passage par effet tunnel à travers un métal vide métal et ceux qui n'acceptaient pas à travers un couche...
Un matériau organique.
Oui, moléculaire, sur une couche moléculaire. Et c'était en 88
70. 72-75.
D'accord.
C'est en même temps qu'un ouais. C'est en school des 70.
Parce que je me souviens, quand j'étais en début de thèse, on a eu une Faraday discussion en 92. Mm-hmm. Et là, c'était accepté qu'on pourrait traverser une couche assemblée sans problème. Mais toujours est-il que la procédure de transfert n'était pas compris. Hein. Là, c'était les discussions avec Alan Bard.
Il
y avait un progrès quand même, une évolution dans ce temps.
Dans les années 95-96, je ne sais pas le nom, il y a quelques professeurs parisiens qui ne comprenaient pas comment faire passer des électrons à travers une petite molécule de monoxyde de carbone. Ni même à travers l'atome de Zénon, qui était par essence même un atome hyper isolant. Ils ne comprenaient pas, alors que les états électroniques sont tellement hauts et tellement bas d'énergie, que si j'applique 10 millivolts, les électrons passent à travers l'atome de Zénon. C'était impossible.
dans le sens de la mécanique quantique qu'il connaissait. Ou alors il fallait vraiment inventer des passe-murailles, un paquet d'ondes compressées. Non, je peux me permettre, j'ai oublié deux trucs. Il faut que je réponde à Gérald et à Jean-Marc et Leblon. Juste parce que ça j'ai envie de le faire. Ça va monter plus la discussion que l'histoire. Parce que l'histoire, de toute façon, il y a des écrits, des références, on peut interpréter, mais il y a des... Jean-Marc Yves Lebon semblait, par exemple, étonné, même plus que ça, je dirais, que l'on puisse faire de la mécanique sur une seule molécule. Et Gérald, d'ailleurs, Dujardin, a même dit à ma place, il y a quelque temps, que quand il enseignait, il avait du mal à expliquer qu'en fait, cette molécule faisait ce qu'on lui demandait. Et qu'en fait, elle a même tendance à ne pas faire du tout ce qu'on lui demandait. C'était au hasard. En fait, il y a un petit oubli là-dedans, c'est qu'une molécule sur une surface n'est plus un objet quantique. Et ça peut se démontrer. Formellement. Et donc, si elle n'est plus un objet quantique, elle a toujours en son sein ces interactions qui la structurent quantiquement, au sens de la structure de la chimie quantique, diraient les chimistes quanticiens, mais arrivée sur une surface... Elle perd, entre guillemets, sa fonction d'onde, qui décohère et relaxe, les deux à la fois, et à ce moment-là, l'objet est quantique de l'extérieur. Et à ce moment-là, on fait de la mécanique.
Classique.
On dirait semi-classique.
Classique.
Oui, on fait de la mécanique semi-classique. Et bien sûr, c'est semi-classique, parce que quand je vais appuyer sur la pointe pour la faire déplacer ou la faire tourner, ben, sa réaction interne, bien sûr, je vais la pousser un peu, son augmentation de l'énergie potentielle à l'intérieur, évidemment, elle va être gérée quantiquement, de l'intérieur. Et puis progressivement, même ceci va devenir classique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tant de mal à faire ce qu'on veut à une molécule. C'est pas parce qu'elle est quantique, c'est parce que classiquement, on a du mal à comprendre ce qu'il faut lui faire, classique, quantique. Et on n'y est pas arrivé encore. Donc on arrive par exemple sur la crémaillère, avec le pignon qui bouge moléculairement sur la crémaillère. On regarde bien, ça joue à 70% comme une crémaillère. Et puis à 30%, ben, ça fait ce que ça veut. Mais ça fait ce que ça veut, non pas quantiquement. Ça fait simplement ce que ça veut, parce que comme sur une route bicyclette, si vous avez un pignon qui est mal centré et qui fait ça, eh ben, il y a des fois, ça ne roulera pas bien. Eh ben, la brave molécule qui est comme ça, la pointe est là, on a du jeu. Et comme il y a du jeu, ben, mécaniquement, elle ne fait pas ce qu'on veut. Mais ce n'est pas magique. Disons qu'il n'y a pas de mystère quantique dans cette histoire. Alors, ça c'est... Alors, l'autre chose, il y a Jean-Marc Yves Leblon qui disait... qu'on était en situation, je dirais, je sais pas, de préscience, je sais pas quoi, que la nanoscience n'existait pas, et que c'était en situation pré-17e siècle, je crois, c'est ce qu'il avait dit. Hein.
Parce que son argument, c'était qu'on pouvait faire sans comprendre d'un point de vue théorique, et que c'était empirique, et que justement les transitions quantiques classiques, c'était un peu au cas par cas, et puis on regardait si ça marchait.
Non, c'est ça. Il y a trois choses là-dedans. Il y a le fait que c'est pas au cas par cas, parce que maintenant, quand on décide une molécule et qu'on la construit mécaniquement sur ordinateur, qu'on voit au chimiste, que le chimiste la synthétise et qu'on arrive à se mettre d'accord, bon, déjà entre les deux, qu'on fait l'expérience, je dirais que maintenant, on a de bonnes chances, même si ça marche pas à tous les coups, que ce qu'on a prévu arrive. Même si à des fois, on a des surprises, la molécule fait autre chose. Mais grosso modo, le pignon, quand on l'a marqué pour voir s'il tournait, on a dessiné de marquer, on a fait les tests sur ordinateur, on a fait le tagage en changeant chimiquement un petit point, ça a marché. Quand on a fait les trucs à deux roues, ça a marché. La brouette, ça n'a pas marché pour notre raison, mais qui n'a rien à voir avec la mécanique quantique. C'est qu'on s'y est mal pris. Bon. Parce qu'on a du mal, en tant qu'être classique, on a du mal à dessiner la chose pour qu'elle agisse dans le milieu tout petit. C'est tout, bon. Donc là, on apprend. Là, je dirais, c'est parce qu'on est des nains avec... un grand N et pas deux N à la fin. Voilà.
Mais est-ce que vous avez les logiciels de calcul?
Oui, parce qu'on a créé. Là où je ne suis pas d'accord non plus, c'est qu'effectivement, on a des outils théoriques qui existent, qu'on développe aussi en parallèle. La théorie, normal, se développe. À mon sens, il n'y a pas assez de chimistes théoriciens qui s'y sont intéressés. Si plus de chimistes théoriciens, qui sont à la base quand même, s'y étaient intéressés, peut-être que ça aurait été un peu plus vite. Parce qu'il a fallu, entre guillemets, à la fois développer les molécules, les concepts, la théorie et les expériences. Bon. Ça fait un peu beaucoup, au bout d'un moment. Tous ensemble. Et par contre, je suis d'accord avec lui en disant que le mot nanoscience, personnellement, c'est un avis qui engage que je veux dire, les nanosciences n'existent pas. Au sens où tout ce que pour l'instant on utilise au niveau concept théorique, substrat théorique, c'est la mécanique quantique. Et il n'y a pas besoin, pour le moment, encore, d'inventer un nouveau vocabulaire qui serait en fait de nouvelles lois. Si on parle de nouvelles sciences, avec un nouveau mot associé à cette science, c'est donc on va avoir des nouvelles lois. Pour le moment, on n'en a pas. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas négatif ce que je dis. On est en phase d'exploration. On a accédé à un nouveau domaine. On joue avec des nouveaux objets. On s'y prend très mal. J'en suis sûr que c'est pas très mal. Et en plus, on n'a pas beaucoup d'accès non plus pour le moment. On va venir à ces problèmes de communication. Pour l'instant, ce qu'on fait avec un seul objet et une pointe, c'est juste un accès. On n'est même pas encore à exciter d'un côté pratiquement et avec un autre appareil de mesure, mesurer. On a juste un accès, donc c'est pas terrible. Et donc c'est pour ça que le mot nanoscience n'existe pas, en mon sens, et n'existera peut-être jamais. Même si mon groupe s'appelle nanoscience, il n'existera peut-être jamais parce qu'on n'aura peut-être pas besoin, on n'ira peut-être pas au-delà, on n'aura peut-être pas de surprise. Peut-être qu'on en aura. Mais j'aimerais bien me trouver en... au moins les plus jeunes, en face d'une catastrophe ultraviolette. Ça serait bien, ça. Évidemment, tout le monde a envie de faire ça. Mais pour ça, je pense que si on regarde le cheminement scientifique qui a conduit à la catastrophe ultraviolette, ça a été quand même des empilements d'expériences, de contre-expériences, de suppositions théoriques, de calculs qui ont duré de 50 à 100 ans. Même plus si on regarde la filiation bien avant, jusqu'à même jusqu'à Galilée, à la limite, c'était endémique. Donc c'est quand même... Là, regardez, on en est à 1990, on est en 2007. Même si le temps technologique s'est raccourci, le temps scientifique s'est pas vraiment raccourci. Donc pour ça, au niveau nanosciences, parce que alors maintenant, ça c'est donc je suis vraiment d'accord là avec Jean-Marc Livier-Bon sur ce point-là. Et le dernier point sur les problèmes de communication, qu'a mentionné Gérald, comment changer d'information avec une molécule. On est très pauvre en ce moment, mais il y a, je dirais, un renouveau, on essaye en fait, de trouver d'autres moyens, d'autres technologies pour échanger de l'information avec une seule molécule. En particulier, la pression, je dirais, technologique, la microélectronique, fait qu'on aimerait bien mettre à plat les petits fils atomiques. Et beaucoup de gens essayent de mettre à plat, de tisser ou de fabriquer des petits fils atomiques qui aboutiront à une seule molécule pour que cette molécule fasse une porte logique, etc. Donc ça, c'est une envie technique. Et on discutait à midi, c'est que maintenant, vous pouvez, sur le marché depuis 2 ans, c'est cher, acheter quatre microscopes effet tunnel dans la même enceinte qui convergent vers un même endroit. Donc ça fait 4 accès, tout ceci sous un microscope électronique. Donc vous avez à la fois 2 histoires qui se mélangent, un microscope électronique et un microscope effet tunnel, qui se regroupent sur un petit endroit où vous avez une navigation par la microscopie électronique qui vous permet de passer du millimètre à 10 nanomètres, et la pointe prend le relais en dessous du microscope électronique. Ça vaut 1 million de francs, non, d'euros. 1 million d'euros. Et vous pouvez même, un franc, on achète, et vous pouvez même en trouver avec 8 pointes, si vous avez de l'argent. Et vous avez 8 joysticks indépendants qui vous permettent de jouer, comme un jeu vidéo. Prenez vos pointes. La résolution, et le dernier avatar que vous trouvez sur le web qui vient d'apparaître par une boîte qui s'appelle RHK, garantissent maintenant même qu'on peut manipuler un atome avec une des pointes. Et pour la petite histoire, l'histoire des sciences ou l'histoire de la technologie, la personne qui a aidé cette entreprise à faire ce nouvel instrument par rapport aux 2 autres que j'ai mentionnés a travaillé avec Don Heigler. C'est Mike Cromie. Donc, la filiation est là et le savoir-faire technologique manipuler un atome est en train de diffuser sur des instruments très compliqués technologiquement parce que pour manipuler 6 pointes, 8 pointes à la fois, un microscope électronique par-dessus, c'est-à-dire, il faut avoir... faut être plusieurs. Et l'autre chose qui fait rêver aussi, c'est qu'un domaine qu'on n'aborde pas du tout au niveau des nanos, pourtant, à mon sens, au niveau contrôle ou contrôlabilité nanojet ou petit, c'est tout ce qui sont un atome froid, une molécule froide, et tous les efforts qu'ont les gens pour essayer de manipuler les histoires de téléportation d'état quantique. C'est un autre moyen ouvert qui est génial, on ne sait pas faire non plus, c'est encore moins avancé que la partie en surface. Mais par exemple, je mentionne des manips en Allemagne où les gens font de gros efforts pour essayer, un peu comme un GPS, de trianguler le mouvement d'un seul atome dans une enceinte. Donc vraiment un seul atome. Alors bien sûr, il ne reste pas longtemps, pour le moment. Mais donc, et avec éventuellement, dans l'idée de contrôler le mouvement d'une petite molécule en 3 dimensions. Donc ça, c'est des envies. Encore une fois, c'est des envies. Et ou des pensées, comme nous avons dit. C'est important parce que c'est. Moi, j'aimerais bien faire voler une petite molécule avec un joystick à 3 dimensions et la voir. Je vais me faire psychanalyser par Bernadette. Mais Bernadette, la prochaine fois que tu viens à Toulouse, je vais te montrer un truc superbe, un petit hélicoptère qui est comme ça, que tu télécommandes et qui vole. sans fil en plus, hein, avec une batterie. Et ça vaut 20 euros.
Comment ton hélicoptère ?
Comme ça, même pas, comme ça.
Non.
Comme ça. Non, oui, mais non, non, d'accord. J'ai acheté ça à mon fils. Pour l'entraîner.
Enfin. Ce que tu fais comme histoire,
oui.
Moi c'est pas l'histoire.
Ah bah si tu veux. Bon,
je... c'est intéressant, c'est très intéressant. Tu nous racontes l'histoire d'une communauté à laquelle je partirai, oui. Donc c'est passionnant. Et c'est intéressant que tu l'aies divisé en 5 items, qui ne sont pas reliés entre eux, ça diverge complètement.
Mmh. Ah oui, tout à fait.
Il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de politique scientifique.
Ah non, mais ça.
Vous vivez de l'air du temps, vos instruments vous tombent comme ça, ils arrivent, personne ne vous les finance, et en revanche...
Ah si, à la fin j'ai dit quelque chose, mais je n'ai su, ça je l'ai fait exprès, je te dis.
En revanche, il y a des envies.
Oui, bien sûr.
Je retombe, c'est qu'elle est... L'histoire que tu nous racontes, c'est une histoire de désir, de savoir. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Ces désirs de savoir... c'est des désirs d'instruments, c'est des désirs de connaissances.
Ou quand... Non, je peux arrêter.
Politique de recherche, etc. Comment ça s'emparait de la chose?
Mais il y avait des politiques de recherche dans les années
70. Ah bah bien entendu.
Ce qui est intéressant, c'est que tu as fait venir... la convergence entre l'électronique et la biologie dès les années 60. Et ce n'est pas que des individus qui étaient dans cette convergence.
Oui, mais pas au sens nano du terme. C'est au sens cybernétique. C'est pour ça que je fais. Voilà.
Donc il y avait déjà en fait une politique scientifique qui allait dans ce sens-là et qui était dans...
Mais mon fil directeur, c'est pas celui-là. Mon fil directeur, c'est... J'ai bien le mot de l'histoire, c'est vraiment dans l'arrière-cour de la cuisine ce qui s'est passé au départ.
Des nanos.
Des nanos et de la manière finalement dont le mot nano a bouffé, comme un Pac-Man, a bouffé les moléculaires, par exemple. Puis a bouffé la mécanique moléculaire, par exemple, c'est une mécanique moléculaire.
Alors maintenant, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il y avait pour ça un milieu favorable de réception qui était, lui, tout à fait structuré. Et qui a fait que ça a pu croître à un moment donné parce que ce milieu a pu l'accueillir. Et ce milieu n'était pas un milieu de nanosciences ou de nanotechnologie. Par contre, c'était déjà une thématique de la convergence. C'est ça que vous dites ?
Il y avait déjà une convergence dès les années 70.
Oui, mais cette convergence-là n'avait pas pour but de remplir, je dirais, le pacte écologique des Californiens, qui était de dire, mettons le moins d'atomes possible pour l'électronique, pour la mécanique. Ça n'avait rien à voir avec ça. Ça s'est remarié quand les microélectroniciens ont regardé, avec les banquiers d'ailleurs, ont regardé de près la loi de Moore et se sont dit, bah, finalement c'est prédictif, on va faire du rendement. Et on va faire de l'argent. Et moi je parle encore une anecdote personnelle, mais c'est vraiment une sorte de pouvoir vraiment cette fois-ci. Comme je suis trouvé à Vancouver à présenter l'Europe sur la microélectronique, la nanoélectronique du futur, comme c'est de demander l'Europe à tous les animateurs de projets européens. Un soir, j'étais à une table, je ne sais personne. Et je m'assois, je te racontais tout à l'heure, je m'assois à la table pour manger, et j'avais 5 personnes autour de moi. Ils me demandent, qu'est-ce que vous faites ? Moi, fier, je dis, électronique moléculaire. C'était que des banquiers. Ils me demandent, qu'est-ce que c'est, électronique moléculaire ? Et c'était, fin 96. Alors, je reste, je suis fier, ils sont intéressés, je dis, chouette. Ils me disent, vous, ça ne vous intéresse pas. Il n'y a plus de marge de croissance, il n'y a plus rien. Vous êtes en bas du bas. On ne fera plus de croissance. Je suis reparti, terminé. et l'ouverture dont vous parlez, ça a été ça pendant un certain temps. Ça a été, peut-être qu'il y a de la marge de croissance, parce qu'on va encore descendre. Et on va pouvoir continuer cette fameuse courbe qui fait tant plaisir aux banquiers en particulier, parce qu'ils savent à peu près prédire combien ils vont gagner par an. Et mais maintenant, ça se retourne, parce que maintenant, à l'Europe, ils sont vraiment de pouvoir se rendre à l'autre, c'est qu'on nous rejette l'inverse, on nous dit, mais on a le temps. Pourquoi nous embêter à nous piquer de l'argent ? Nous, microélectroniciens, on peut encore faire 20 ans, 30 ans. Et là ça se débat, ça débat réellement au pouvoir. Parce que, effectivement, il y a les petits scientifiques de tous les pays qui viennent pour essayer d'avoir un peu d'argent pour travailler. Et puis, il y a les gros mastodontes de la microélectronique qui viennent aussi pour avoir de l'argent.
Et est-ce que tu pourrais pas... Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que dans ton histoire, c'est quand même une séquence
chronologique. Il y a de la convergence dans les années 60, enfin, sur l'époque de la biologie de la nécessité, de la naissance de la biologie moléculaire. Puis, il y a l'époque du STL et tout ça, où la biologie est au centre de
l'histoire.
J'en veux la première fois quand on était venu de la biologie, tu nous as dit le biomimétisme, moi, j'en fais pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma tasse de thé. Donc, tu n'es pas dans cette ère. Et est-ce que le grand programme de convergence, c'est pas renouer, justement, parce que les investissements en électromobilité, ça intéresse les investisseurs, comme revenu, comme un moyen de relancer les investisseurs, avec cette fois comme objectif essentiellement la biomédecine, ou là, l'augmentation.
Attends, il y a deux choses là. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une convergence par phénomène de taille et entre l'électroélectronique et la biologie. Ceci donnant tout un tas d'autres choses, nanomédecine au sens large, et au sens nanomédecine vraiment sens nanonanette, où vraiment tu vas soigner l'ADN vers le bas. Voilà. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le nano. Pourquoi nous l'avons du nano? On nous l'a vendu nano parce que c'était le seul moyen pour faire passer aux politiques quelque chose de moderne. Et tu trouves la trace de ça, encore une fois, à partir de Al Gore en 92. Et c'est les Américains qui, malicieusement, ont enfumé tout le monde en mariant tout ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la filiation STM, envie de faire des choses à tout par à tout. C'est une convergence normale, la plupart, je ne sais pas si c'est naturel, mais normale, entre deux domaines qui nous viennent des années 70, la cybernétique, la microélectronique, qui se convergent en taille, mais ça, après on a, pour ça, tu peux éliminer l'invention du microscope à effet tunnel à la planète, ça ne changera rien. Et c'est pour ça que l'année 89 est importante, parce que à chaque fois que tu as un nouvel instrument, il se passe des choses. Tu vires cet instrument, ça ne changera rien, à part le prétexte nano, ça ne changera rien à cette aventure-là.
Sur la domination des industries fabriquant les instruments de mesure, c'est un peu inquiétant, parce que finalement, c'est eux qui, quelque part, donnent la vérité à travers leurs instruments. Est-ce qu'il y a, comment se structure le marché aujourd'hui? Quelles sont les entreprises et les acteurs?
Oui, ça marche de deux manières. Parce que ça vient de bien, en général, il y a des entreprises qui fabriquent des instruments, qui sont à l'écoute des laboratoires, qui, eux, pour leur propre besoin scientifique, développent des instruments. Et après, ça se transfère. On ne connaît qu'à chez nous, mais beaucoup des pas. Pour une entreprise s'appelle Createch, qui est l'entreprise qui vend le meilleur microscope, qui garantit d'ailleurs qu'on l'achète. Si vous l'achetez un microscope qui ne s'écrise pas vraiment atome par atome, vous dépensez, je ne sais pas combien vous avez payé, mais ça fait 400 000 euros. Vous dépensez 400 000 euros, vous avez certifié que quand il livrera, atome par atome, on vous écrira, on vous laissera, c'est un peu mieux que sur le soir de cul. Certifie. Voilà. Bon, en fait, d'où vient cet instrument? Cet instrument, tout simplement, c'est Gerhard Meyer, qui était un universitaire, qui avait passé un peu de temps à faire le STM à l'UL dans les années 88-89, comme nous, et qui est passé en Allemagne comme permanent, et qui a voulu améliorer l'instrument. Et en améliorant l'instrument, bel exemple de transfert technologique entre l'université et l'entreprise, l'université de Berlin l'a aidé industriellement à faire cet instrument. Et après, il a créé une entreprise et maintenant il vend l'instrument. Donc là, il y a eu un aller-retour. L'exemple inverse, c'est Hitachi a soudainement besoin d'un nouveau produit instrumental qui est 4 pointes pour aller s'approcher d'un transistor sur le puce. Personne ne fait ça. Il va voir Omicron, qui est le plus grand fabricant en 98, je crois, du microscope effet tunnel. Ils disent c'est temps, vous le faites. Et ils l'ont fait, mais heureusement pour nous, ça fait plus que ce qu'a demandé Hitachi. Voilà. Donc c'est vraiment des atouts permanents. Il n'y a pas une domination, en fait. Mais les industriels, bien sûr, instrumentaux, sont à l'affût de toutes ces innovations de laboratoire. Ils sont à l'affût de ça.
Donc finalement, il y a autant de fabricants que de communautés scientifiques. Ça rejoint un peu les grandes nations industrielles ou c'est...
Bah, je dirais quand même, ça dépend des domaines. En microélectronique,
si je vais du côté déjà plus japonais des États-Unis, je pense que les équipements de salle blanche, ça peut tourner autour de ces deux-là. Microélectronique, je vous parle. Mm-hmm. En biologie, comme maintenant une espèce de convergence pour l'équipe de salle blanche, les spectros, je suis sûr que beaucoup de spectros en biologie, s'ils ne sont pas fabriqués chez Yamamatsu et compagnie au Japon, ou... voilà, c'est... Non, il y a un endroit, effectivement, en Europe, dans notre petite communauté, sur Zinor-Corse, c'est la microscopie, effectivement, où les deux meilleurs fabricants mondiaux de précision, par les moyens de précision, sont allemands. Là, c'est la technologie dure, sérieuse. Mais maintenant, effectivement, ça diffuse aussi, c'est normal. Bon. Les Japonais, s'ils sont essayés, ils sont placés dans la patelle. Les Américains, s'ils essayent avec les 8 pointes, mais bon, je ne sais pas où c'est allé. Enfin, c'est assez dynamique. C'est...
En AFM, c'était un peu plus ouvert.
Ouais,
juste.
Oui, mais là, c'est juste grand public. Je dirais que c'est un instrument grand marché, grand public, si je suis entre guillemets. Il n'y en a pas, ça se diffuse partout, ça fait.
Les exigences,
ouais.
La précision,
oh, oui, mais
n'est pas le même niveau.
C'est pas le même niveau.
Pour moi, pas encore.
Non, pas encore.
Je voulais juste revenir sur la remarque de Bernadette concernant la présentation que tu as faite, en minimisant, en minimant, en évasant des aspects de pouvoir, etc. Sauf à un moment, quand même, dans le système que tu as abordé, c'est le quatrième, celui de la sémantique du monono, où tu as pu essayer de montrer justement que autour de ce terme, de ce concept, enfin, ce mot.
Ah, mais là, il y a des vrais,
il y a des confusions, et donc.
Non, il y a des buts, il y en a encore.
Voilà, exactement. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est justement ce chapitre-là. On te supprime,
donc bien là, quand je donne mon téléphone de mon
non mais alors, tu t'arranges avec ça, tu peux nous en dire plus. Est-ce que c'est simplement parce que, bon voilà, le bouquin il est calibré, c'était trop long, etc. Il y avait vraiment un enjeu.
Moi je poserais
fond.
La question à Jean, pourquoi ça t'intéresse tellement l'étymologie de mon
nano? Parce que je veux dire, dans le plan de livre aussi fixe au départ, c'était un chapitre de respiration. Ce qu'on avait écrit, c'est assez amusant. Peut-être qu'il puisse appuyer. Et effectivement, il est plus souple et plus léger par rapport à tous nos chapitres. Donc ça permettait en fait d'aller.
Quel est l'enjeu de la définition du nom?
Parce qu'il me semble qu'actuellement, il est tellement mal employé de tous côtés qu'il serait utile, en termes de nomenclature, de bien revenir là-dessus. Et c'est amusant de voir que dans le passé, dans les années 50, il y a eu le même problème entre deux communautés. Et qui ne s'entendent pas sans.
C'est quand on a les deux, quand on a les deux orthographes, nano avec deux N, nano avec un N, nano avec deux N, tu peux le réserver à tout ce qui est justement cette convergence entre microélectronique, biologie, c'est-à-dire petit, mais quand même plus gros que l'atome ou la molécule isolée, et réserver nano avec un N, au sens latin du terme, c'est-à-dire tout ce qui est. Au niveau de la molécule de quelques nanomètres. Et le problème que ça pose, c'est pas simplement sémantique, c'est vraiment un problème de définition du domaine et donc de recherche de financement, d'adresse, etc. On est confondu, nous qui faisons vraiment de l'atome par atome de la molécule isolée avec un tas de recherches.
Sans faire de localisation, mais qui a aucun raison, c'est le même sens. Ceux qui font nanomatériaux, moi j'ai priorité dans un comité français de sélection de projets. Je me suis aperçu la confusion dans les deux sens, c'est ça. J'ai vu apparaître dans un comité des trucs qui étaient nanomatériaux, qui n'avaient pas rien à faire là. J'ai vu apparaître dans l'autre côté des trucs qui étaient atomes par atomes, qui n'avaient rien à faire là, mais ça s'appelait nano. Et il y avait un seul type d'experts autour de la table. Et ils étaient incapables de juger dans un sens ou dans l'autre, suivant les thèmes. Et du coup, je ne prends pas parti dans un autre, je dis simplement qu'il faut éclairer par une définition précise ce qui se passe, sinon c'est la confusion totale. Au niveau de la politique de financement, au niveau des institutionnels, au niveau institutionnel, etc. Et là, on nage en plein délire, pour le moment, de tous côtés. Mais ce n'est pas quand je vais la pierre à l'ange, c'est qu'il y a besoin de définition. Et cette histoire-là, c'était pour demander, il faut éclaircir, et c'était amusant de retrouver dans l'histoire de ce préfixe, que ça avait déjà été le cas avant, et qu'il y a encore des résistants. Je crois qu'on finissait le chapitre en disant, comme ça, en disant, en outre, la poche de résistance double N existe toujours en biologie et en paléontologie.
Mais eux, ils se battent pas
pour
le financement.
Mais justement, non, mais maintenant, ils vont se battre pour le financement. C'est qu'on voit maintenant apparaître. Tu vas là sur le web, tu tapes nanopaléontologie avec deux N, les occurrences à deux N commencent à disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris qu'ils veulent récupérer de l'autre côté avec un seul N de financement.
Pardon ?
Je préfère l'argent à l'identité.
Ben, en ce moment...
J'ai une question très précise sur... On dit toujours, bon, il y a un lobby qui a poussé la naissance de la nanotechnologie initiative. C'est qui, en termes de discipline scientifique,
c'est tout le monde, une personne. Je dirais simplement que pendant longtemps, beaucoup de gens ont des envies. Et tout le monde, entre guillemets, a toujours eu envie, en termes scientifiques, d'aller voir dans le petit comme dans le gros. Et naturellement, au cours des siècles, on descend.
Non,
tu n'es pas d'accord. Je suis désolé, j'ai en lisant.
C'est
bon,
naturellement,
j'ai
jamais prononcé le mot naturellement.
Ah, bon, par envie, t'entends, on va remettre ce truc, par envie de pouvoir, qui est aussi naturel d'ailleurs dans les forêts tropicales, mais par envie de pouvoir, les gens ont volé en bas. Et chaque SLEC a porté ses instruments pour faire ça.
J'ai une question. J'ai le sentiment que vous avez donc besoin effectivement de mettre les choses à plat et que se retrouve un petit peu dans la technologie. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose de l'autre côté de l'Atlantique? Parce que ce que j'ai entendu moi récemment, retour aux États-Unis d'un collègue chercheur, c'est que par exemple des physiciens statisticiens de Chicago disent bon, c'est en train de baisser l'affaire Nano, il faut qu'on trouve autre chose. Ça ne dérange pas d'avoir fait une supercherie gigantesque, d'avoir mis un mot dans le vocabulaire et que tout le monde s'empêtre dedans. Ça ne les gêne pas. Vous, ça vous dérange?
Parce qu'on était plus français que les Américains, on est plus Lavoisier, je dirais, qui disait que, je ne sais plus comment il disait au niveau de la nomenclature, il faut fixer une nomenclature pour s'en trouver un truc comme ça. Et on est plus de ce côté-là. Eux, leur intérêt, et on l'a vu à la fin de la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont lancé Science Genes Frontier avec Bush qui a fait le rapport, c'est qu'effectivement, tous les 20 ans ou tous les 30 ans, je ne sais pas si c'est périodique, mais ils lancent une nouvelle aventure. Ils s'emparent du mot à la mode pour lancer cette aventure-là. Mais c'est leur habitude, nous, c'est pas notre habitude. Ça serait peut-être pas mal, mais c'est pas notre habitude. C'est tout, c'est pour ça que. Mais on en discute. Il y a eu récemment des historiens des sciences, un anthropologue américain, je crois que je vais passer le nom, qui s'est emparé de l'histoire pour essayer déjà de citer un peu la base de l'histoire de Feynman, en analysant ça. Donc eux aussi, ils commencent à essayer de démonter la manière dont Drexler a inventé un mythe.
C'est pas
tout
simplement parce qu'ils ont aussi beaucoup plus de moyens.
Effectivement, si on asséchait les moyens, effectivement, peut-être qu'on pourrait sortir les guerres, comme dirait Torrent qui s'assèche.
J'entends votre discours au niveau de la mission européenne, c'est que tant que ça ne couvre pas des domaines importants, c'est pas grave. On asperge l'anneau parce que l'anneau, au niveau de la condition, si on met l'anneau dans une dimension, ça peut marcher.
Oh oui, ça peut même dans aucune dimension. Ça.
Ouais.
Si vous faites une précise fabrication, ça suffit. Non, mais il y a deux choses.
Ils ont de contraintes extérieures.
Non, mais il y a aussi un problème de pari. Imaginons, par exemple, en ce moment, la lutte, cette fois-ci vraiment de pouvoir, en revenant, j'en ai parlé en Europe, c'est de savoir si l'Europe s'ouvre à un nouveau domaine, qui est comme les Japonais voulaient le faire, pas les Américains, les Japonais veulent le faire, au départ avec Kaono dans les années 90-91, qui appelait le projet Atomic Project, qui était lançant une aventure de précision atomique de fabrication. Des objets, des machines, etc. Arnaud, c'est que c'est la tête. Là, dessus, j'oublie d'en parler, mais c'est la tête. L'Europe se pose la question, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Alors, après, on peut se dire, est-ce qu'on se lance dans le pari? Si le pari est faux, on n'y va pas. À ce moment, c'est ce qui prend comme... Mais ils ne sont pas en même position que les Américains. Les Américains sont un peu en position start-up. J'arrose partout, et ça va bien germer quelque part. L'Europe ne fait pas ça, ou ne peut pas faire ça. Les Japonais sont en train de commencer à vouloir le refaire. D'essayer d'arroser et d'attendre. Si 1 sur 10 marche, c'est... Et ça, c'est une analyse qu'on avait faite à l'OFTA avec les pays industriels. Bon, si on regarde bien par domaine, quel que soit le domaine, par domaine, on trouvera toujours en Europe un qui est super bon. Quel que soit le domaine. On va aux États-Unis, on trouve 10. La différence, elle est là. Donc après, c'est une question de pari. L'Europe peut parier, et on a vu les luttes, on s'est repris dans la figure. Je vous donne une anecdote. On a lutté pendant 1 ou 2 ans à 2 laboratoires français plus d'autres pour essayer d'avoir une ligne dans un projet du 7e PCRD correspondant à la technologie atomique. On y était presque arrivé, on était tout contents, à la dernière réunion, franchement, bien content. C'est ce qu'on avait arrivé, on arrivait à un gros paquet qui était tout à fait autre chose, avec caché dedans une toute petite ligne dans la ligne correspondant à ça. Conséquence, plein de gens, peut-être dans mon labo et dans d'autres laboratoires, ont dit c'est plus la peine, pour avoir de l'argent pour travailler, on va ailleurs. ils ont tourné Kazakh, ils commencent à faire de l'auto-assemblage, etc. Et ça, c'est une vraie conséquence. Non, mais...
Après ça, tu dis pas
pourquoi. Non, mais d'accord, mais attends. Mon parti pris, c'était l'histoire sans tout ça. Mais là, effectivement, on le voit, je ne comprends pas. Et celle-là, c'est un autre exemple. Et c'est, pour moi, c'est malheureux, parce qu'il y a, effectivement, une envie de faire des choses qui est dans la logique scientifique, une certaine logique scientifique, qui est détournée par des décisions politiques.
La construction intellectuelle, elle ne se fait pas dénuée de pouvoir, dénuée de ce qui est dans l'air du temps.
Bien sûr, j'essaie de montrer que l'air du temps avait contribué.
Mais je voudrais qu'elle prenne le mot pouvoir, pas seulement dans ce sens-là. Dans l'histoire de la microscopie électronique et du STM, voir les défauts, c'est automatiquement et en même temps pouvoir en ajouter pour faire quelque chose. Tu l'as dit, et c'est ça pour moi l'histoire de pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas voir pour seulement explorer, c'est voir pour fonctionnaliser, pour faire quelque chose, pour pouvoir ajouter des impuretés et obtenir les propriétés pour faire quelque chose. Et dans tes envies, il y a bien des envies.
Il y arriver. Il m'a fait l'ordonnance un jour, ben là c'est le petit fond en plus.
Attends, je t'en mets la note.
Ah oui, bien sûr. C'est remboursé par les écus, en fait. Non, mais ça dépend. Par exemple, dans le cas de la microscopie électronique, bon, moi j'ai jamais discuté avec Rouchka et Muller, mais je fais confiance à entre mon historien, qui connaît très la microscopie électronique, qui est Peter Hooks. Il m'a toujours dit, en lisant les quelques écrits qu'on trouve sur eux, que leur envie, c'était envie de voir. C'était deux jeunes qui s'étaient montés le bourrichon, quoi. Je veux dire, l'un par rapport à l'autre, c'est en compétition, parce qu'ils voulaient être le premier à voir un atome. C'est tout. Et c'est pas pour voir un défaut, c'est pour voir un atome, juste l'envie de voir. Et ça, on le voit bien dans les deux. Il y en a un qui a gagné et qui est mort avant l'autre, et l'autre a le même. Alors que microscopie effet tunnel, c'est pas pareil. C'est-à-dire, son utilisation a été un retournement, par rapport à l'objectif du départ. Un double retournement, d'ailleurs. Un tournement d'imagerie, meilleur qu'on pensait, et un tournement d'action, ce qu'on peut appeler une. Mais ceci dit, la microscopie électronique, finalement, c'est absolument pareil, parce que les gens qui font des lithographies électroniques, c'est la même chose. C'est un détournement, en fait, d'action par rapport à l'imagerie. Puisque je peux brûler localement avec un faisceau d'électrons, et je fais des lithographies. Donc c'est aussi un détournement d'action.
Est-ce que je peux reposer la même question que Bernadette, mais un peu différemment? Tu as dit très bien en biologie, ils ont des banques de données de molécules fondamentales, et puis ils aimeraient bien voir comment tout ça fonctionne et les faire servir à quelque chose. Vous accumulez des données sur des molécules individuelles, et finalement, est-ce qu'il y a un travail cumulatif? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un quelconque projet dans le sens de construire quelque chose qui utilise ces données scientifiques pour faire fonctionner? Je sais pas quoi. Ou est-ce qu'à chaque fois, le travail d'abstraire des données quantitatives de la matière, à chaque fois, ça s'arrête et puis tu reprends avec une autre espèce, etc.
Il y a deux parties. La première partie, c'est que pour le moment, l'accumulation de savoir, c'est la statistique de savoir, d'abord, c'est de constater que est-ce qu'on est meilleur qu'il y a 10 ans entre la conception de la molécule et l'expérience qu'on fait. Ça, c'est la première chose. La réponse est pratiquement non. Sur ce côté-là, on est encore en phase d'apprentissage. Ça, c'est, deuxième point, moi j'aime bien le mot envie, parce que ça rentre chez Bernadette. Ça fait résonner Bernadette, l'envie scientifique. Je pense que l'envie scientifique par derrière, c'est de cumuler, enfin, pour certains d'entre nous, si on n'a pas pris pour tout le monde, de cumuler la croissance du nombre d'atomes par rapport à la machine qu'on va faire. Jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on peut, typiquement, faire un ordinateur complet un jour, atome par atome, ou est-ce quelque part on va être arrêté, je ne sais pas, à la porte logique, ou est-ce qu'on va être arrêté à deux portes logiques, ou est-ce qu'on va être arrêté pour l'électronique, je ne sais pas, ou à plus. Et ça, c'est un problème important, parce que par derrière, il y a un autre problème qui se profile. Si je suis capable de faire une machine avec plein d'atomes un par un, à côté j'ai un autre objet qui vit, qui s'appelle la cellule, qui a pratiquement autant d'atomes peut-être que le gros ordinateur que je pourrais faire, énorme atome par atome. Et donc on voit tout de suite. Où on va? Est-ce que mon gros tas d'atomes, je peux choisir de l'assembler pour faire une cellule qui va vivre? Peut-être. Ou est-ce que ce gros tas d'atomes, je vais juste l'assembler pour faire une machine? Et ça, là, il y a
Moi, si j'arrivais, je ne sais pas si c'est possible, je ferais possible, si j'arrivais à prendre une cellule, pas un virus, hein, parce que une petite cellule, une petite nanobactérie avec 2N, tiens, ça c'est une poche de résistance aussi. Le secteur des nanobactéries a toujours 2N. Et c'est un secteur actif de science. Et en fait, si je prends une nanobactérie, je ne sais pas combien il y a d'atomes là-dedans, est-ce que les mêmes atomes, je descends tout, je les conserve tous, si ça a un sens d'ailleurs de compter combien d'atomes exactement d'un être vivant, ce qui est un autre problème. Mais imaginons que ça a un sens. Je les prends tous, je détruis tout, je fais tous les atomes sur un tas, et hop, je les mets là, et est-ce que la même chose me permet de faire une machine? C'est un problème de transsubstantation. C'est-à-dire, est-ce que je vais emmener la vie? Est-ce que je vais emmener la vie dans la machine? Et ça c'est très amusant. Ça par contre c'est quelque chose de fort.
Et c'est pas de l'ordre de pouvoir.
Pardon?
C'est pas de l'ordre de pouvoir, hein, c'est ça. Un pouvoir.
Mais force. Non, je dirais forcément d'y arriver. De siècle en siècle, on a été de plus en plus précis dans la manipulation de la matière. Un jour ou l'autre, c'est le cas du mariage bio pseudo-nano actuellement avec les microélectroniques et les BIC, on se collisionne déjà là-dessus. Moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas celle-là, c'est celle d'après. C'est le cycle d'après, quand la collision va arriver, non pas avec la microélectronique et la bio, mais sur cette question, le tas d'atomes, il vit d'un côté, il ne vit pas de l'autre. Mais l'autre côté, c'est vachement important. C'est une question. Non, on fait des virus artificiels. Et ces virus artificiels, ils ne sont pas tout à fait. Il faut être précis. Le virus de la polio, qui a été fabriqué par l'Américain, en fait, il n'a pas été totalement fabriqué. Là aussi, c'est une fumisterie pour faire passer un papier. Ce qu'ils ont fait, ils ont acheté des bouts d'ADN qui leur manquaient, ils en ont synthétisé d'autres, ils ont fait l'ADN du virus, et tout le reste, ils ont utilisé des cellules pour assembler tout le reste. Donc, ils n'ont pas synthétisé tout le virus avec sa coque, ce machin, ses bidules. Tout le reste a été assemblé par la machinerie moléculaire qu'il y a dans la cellule. Donc, ce n'est pas une synthèse totale de la vie. Par contre, il est vrai, et les deux pendants sont identiques, qu'il y a deux projets en parallèle, cette fois-ci en simulation, pas en réalité dans les ordinateurs. Un qui se pose la question, et c'est notamment un endroit qui s'appelle Yanorex, comment simuler entièrement une machinerie moléculaire de plus en plus complexe, ce qui pose une théorie fantastique. Et la même chose du côté d'IBM, je pense, avec le projet Blue, qui est d'abord de simuler comment se comportent quelques protéines dans l'eau, et de monter en taille jusqu'à simuler une gelée de plus en plus compliquée. Et on voit bien un jour, on pourrait essayer de simuler une cellule. Je ne sais pas quelle est la mémoire de l'ordinateur qu'il faut pour ça, mais enfin, ça peut être des pétabits ou des rien. Voilà, donc ça, ce sont deux projets, mais ce sont des projets artificiels, je dirais, ce n'est pas des projets hardware, c'est des projets logiciels. Si ça pose un problème rigolo qui dit Matrix, pas dans l'endroit, c'est que si je simule sur ordinateur une cellule, est-ce qu'elle vit ou est-ce qu'elle ne vit pas en simulation?
Comment ça, c'est amusant de penser ça. Comment se fait-il que quand on parle vraiment des envies comme ça, des rêves que vous avez, on n'ait plus du tout le même discours de ben, moi la biologie c'est trop gros, ça m'intéresse pas.
C'est pas pareil. C'est pas que la biologie ça m'intéresse pas, c'est que par exemple j'ai dans mon mallette ici un exposé que je vais faire en Pierre Plus en Fabre, chercheur de Fabre. En partant, j'ai retrouvé enfin, j'ai eu du mal à retrouver chez Lego, de la vidéo que Lego distribuait gratuitement aux enfants dans les années 90 quand achetait une collection Lego qui s'appelle la collection Mindstorm, qui est une collection de petits robots qu'on peut assembler et télécommander. Et il y avait une vidéo qui montrait, un peu comme Voyage Fantastique, la brique élémentaire de ce robot, Lego, qui est comme ça, miniaturisée, injectée dans le corps, miniaturisée à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Donc tu voyais ces briques Lego se balader dans le vaisseau sanguin. Et d'un seul coup, on avait un zoom, il disait, c'est une technologie subatomique, et tu voyais un ADN modifié pratiquement hydrogène par hydrogène. Grâce au robot Lego. Et si vous ne croyez pas, si vous voulez, je l'ai là. Et voilà. Ça c'est une envie nano-bio, je dirais. Ce qu'on appellerait une vraie envie nano-bio. C'est totalement, je pense, impossible, pour tout un tas de raisons physiques et chimiques, mais c'est une envie. Mais derrière cette envie, comme toutes les autres, il y a tout ce que tu peux mettre sur un tableau noir, scientifiquement et techniquement, pour voir comment t'en approcher, même si cette limite se repousse toujours.
c'est toujours la même chose. Ouais. C'est un peu la quête du Graal, je ne sais pas où il est, mais tu inventes des technologies pour développer. Et
le truc se repousse. Il y a une contradiction entre le fait qu'on repousse la limite et le fait que vous disiez qu'il n'y a pas aucune raison qu'on n'y arrive pas.
Ah bien sûr, mais je suis d'accord. Non, mais je revendique la contradiction totale.
C'est presque plus qu'une contradiction.
Hein. Non, mais regardez l'électronique moléculaire, c'est la première chose. On a passé son temps en électronique moléculaire à approcher de ce qu'on voulait faire et tout de suite à le rejeter à plus loin. Quand on a commencé à essayer de faire une diode moléculaire, auto-assemblée, etc., on a dit, oh, ben, finalement, ça ne servira à rien. On se fixe un autre objectif, qui est de mettre un circuit moléculaire. Puis celui-là, on ne va pas l'atteindre non plus. Hop, on en a encore un autre.
Il y a deux
discours
qui coexistent et qui ne sont pas de même nature.
Oui.
Il y a celui qui dit voilà, on va forcément y arriver,
oui.
Et puis l'autre qui dit ben non, on va pousser les limites.
Enfin. Mais c'est bien ça.
Est-ce que l'enjeu, c'est pas de voir les limites?
Ah, mais ça, oui, ça, scientifiquement. On peut prendre d'ailleurs toutes ces machines moléculaires, etc., comme des machines épistémologiques au sens noble du terme. Ça, c'est clair. Mais ça c'est un bon outil. C'est pour ça. C'est la machine qui permet d'aller chercher la catastrophe. Moi, je suis en admiration de la catastrophe ultraviolette. Ça, c'est vraiment.
Les physiciens moléculaires sont des grands enfants qui tentent de reconstruire des vidéos.
J'en étais sûr. Quand on va arriver à ça, je vais sortir psychanalyste. Ce soir, je vais rentrer dans l'avion, je vais être calme.
Pour longtemps.
Parce que dans la question que je voudrais revenir, c'est quand tu nous parles du sujet d'un laboratoire, tu me dis, je reste très petit, surtout pas grossier.
Non, c'est pas ça, il y a deux choses.
Alors, mais
l'objet tout petit nous permet scientifiquement de pouvoir faire quelque chose. Ce qui est déjà pas mal. Mais on a tous, par exemple, l'électronique moléculaire, on sait, moi en particulier, mais d'autres aussi, les Japonais, par exemple, on vient de découvrir qui avaient la même pensée que nous, avec moins de l'arrière-pensée philosophique d'ailleurs, de grossir cet objet, d'aller vers quelque chose qui calcule plus. Alors, est-ce que tu vas me dire après que je veux faire penser la molécule? Tu peux penser ce que tu veux. Mais simplement, on a un objet, on a la chance d'avoir rempli une partie d'un objectif de jeunesse, qui était de dire, je veux mesurer quelque chose sur une seule molécule. On l'a fait. Alors, on continue à faire ça, parce que c'est amusant, et puis on apprend plein de choses. Mais, d'un côté, comme l'objectif fuyant dont on parlait, on se dit, oui, mais réalisant techniquement que finalement on ne pourra pas aller bien loin dans cet objectif primaire, on repousse l'objectif. Et puis en repoussant l'objectif, on retombe sur une autre chose dont je ne vais pas parler, c'est qu'on rencontre un autre domaine, ça s'appelle les calculateurs quantiques, par exemple, et on fait un autre mariage avec un autre domaine de la science, de la technique, je ne sais pas comment on l'appelle encore, pour aller encore plus loin. Donc c'est des mariages qui permettent. Mais par derrière, il y a encore une fois l'envie, en jouant un peu sur. C'est un peu, quelquefois, en discutant entre nous, on dit, c'est un peu comme Watt. Quand Watt a été devant un problème, et en fait, il a conçu une machine pour détourner le problème. On se dit si on repousse la machine, au bout du bout, on va peut-être rencontrer une catastrophe. Non pas une catastrophe en mécanique quantique au sens d'aspect, c'est-à-dire au sens, je monte une expérience qui ressemble au formalisme quantique pour la tester, mais on va mettre, en fait, les mains dans le cambouis, à faire une machine qui va aussi aller vers le démon quantique. Enfin, je ne sais pas comment on fait ça. C'est bien aussi qu'on disait, un démon qui va aller vers le démon quantique pour le chasser, en fait.
Et
je ne
peux pas avoir une citation sur le mot catastrophe.
Pardon ?
C'est la catastrophe.
Catastrophe, à part, on dit, c'est le mot.
Mais si, parce qu'il y avait à l'époque, quand les gens regardaient le spectre du corps noir, c'est-à-dire sur une boîte, et puis on chauffe, puis il y avait un rayonnement qui sort, il y avait le spectre expérimental, et il y avait la théorie. Et la théorie divergeait, parce qu'en fait, la courbe théorique divergeait complètement. Et donc, il y a eu une révolution totale pour comprendre. Et en fait, cette révolution est venue, sans faire bien, de Planck, mais enfin, est venue une petite erreur de calcul de Planck sur le calcul de l'intégrale pour avoir la forme de la courbe. Et enfin, elle est discrétisée pour calculer son intégrale, et cette discrétisation, c'était la quantification. Après, bien sûr, il l'a fait. Et voilà, donc on s'attend, on voudrait avoir une courbe, un truc, qu'on prévoit, et puis ça marche pas. Ça serait bien. En plus, on a plein de courbes en ce moment, parce qu'on est plus en avance au niveau des prédictions qu'au niveau des expériences. C'est une courbe qu'on a.
Et pour revenir à ça, d'ailleurs, ce que disait Sacha tout à l'heure, quand vous avez répondu, on fait en même temps du fond la théorie, les expériences, et on crée les concepts. Donc, du point de vue théorique, vous sentez à quelle étape, et surtout, comment vous pourriez décrire les éléments théoriques que vous avez par comparaison avec d'autres éléments théoriques qui sont...
Ah, mais bon, les éléments théoriques, c'est simplement d'utiliser la mécanique quantique pour reproduire dans la machine le mieux que l'on peut l'expérience qu'on fait. Ça, c'est clair.
Il n'y a pas de...
C'est ça, je comprends. Mais ceci dit, ça a obligé quand même à faire des efforts au niveau de transformer ce qui était possible. Par exemple, on a créé un mariage entre deux disciplines qui étaient complètement parallèles, qui est la physique monoscopique et la chimie quantique. Deux domaines qui ne s'étaient jamais parlé, vraiment. Bon, physique monoscopique, c'est l'étude des petits fils conducteurs de 100 mm de largeur ou de 50 mm de largeur. Et on a marié deux. Ça a été un travail de quelques années. Mais on n'a pas vraiment de catastrophe, c'est-à-dire qu'on a, pour l'instant, on n'a pas besoin d'autre chose qu'à la mécanique quantique. Sauf que, bon, par moment, on aimerait moins.
Ça, en fait, ce que tu dis, c'est ça rejoint une idée très classique en histoire des techniques. C'est-à-dire que c'est quand la technique ne marche pas, la machine ne marche pas,
ça produit. Oui, bien sûr, bien sûr.
De la connaissance.
Oui,
c'est compliqué, mais ça.
Oui, bien sûr, mais ça,
si on reprend ça, c'est tout à fait.
Sauf que le problème qu'on a, c'est que la machine, vous pouvez y accéder. Elle est bien petite aussi. Donc, déjà, on empile des machines, donc effectivement, à chaque étape.
Bon, on va peut-être s'arrêter là, on a largement dépassé le. Merci, en tout cas. Merci beaucoup.